Donc ça veut dire que si vous êtes diabétique et dépressif, et vous faites un enfant à ce moment-là, les probabilités que des gènes axés vers la dépression ou des problèmes métaboliques pour l'enfant va exploser. C'est-à-dire qu'un macrophage, il voit un morceau de plastique, il n'en fait rien. Donc il faut que la maman mange correctement. La moindre carence nutritionnelle est désastreuse, particulièrement en... Ce qui est certain, c'est que la musculation ne...
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga-3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description.
Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% Podcast, le podcast où on parle santé, sport et nutrition. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Vincent, qu'on va se laisser se présenter à peu près pour la suite, mais je pense que vous n'en avez pas besoin. On va parler justement de la santé de l'enfant. On va essayer de voir justement comment on peut faire, nous, en étant parent ou pas, ou même proche, hein, c'est aussi l'intérêt de ce podcast, c'est d'essayer de vous intéresser à un sujet et de partager aussi ces informations, car c'est ça, on compte aussi sur vous, nous on essaye de vous apprendre, mais vous aussi essayez derrière de casser parfois les fausses croyances qu'il peut y avoir. Donc on va parler de la santé de l'enfant, on va parler aussi de la musculation, des mythes un peu qui sont présents. On entend souvent, il faut pas faire de musculation chez l'enfant, ça justement ralentirait la croissance, et plein d'autres mythes qu'on va essayer de démonter, ou alors peut-être de voir s'ils sont vrais ou pas. Donc on va séquencer tout ça dans la vidéo, vous pourrez avancer s'il y a des thématiques qui vous plaisent et accélérer dans la vidéo. Donc je vais laisser toujours accompagner du Pierrot, bien sûr, de la Pile 1000%. Ça va Pierre, la forme?
Parfait, ravi de recevoir Vincent pour un quatrième épisode, je pense.
Ouais, quatrième, je pense. Et on va le laisser se présenter tranquillement pour peut-être certains auditeurs qui ne le connaissent pas encore.
Coucou, bonjour.
Coucou.
Donc, je m'appelle Vincent Flonneau, je suis enseignant et formateur en master nutrition ainsi que dans différents centres de formation dans le supérieur. J'enseigne tout un tas de trucs comme la méthodologie scientifique, le vieillissement, la biologie de façon générale. Je suis un ancien chercheur dans le domaine de l'épidémiologie du sport et du vieillissement. J'ai été plusieurs fois champion de France d'aviron indoor, même si maintenant je suis à la retraite sportive par rapport à ça. Je suis aussi cofondateur d'une entreprise qui s'appelle V4 pour la mesure de la santé des gens. Et à côté, je suis coach sportif spécialisé dans la prévention des blessures ou la réhabilitation, disons.
C'est assez complet. Donc déjà, un grand merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet, car c'est vrai que nous, on est un petit peu loin quand même de notre domaine d'expertise avec le Pierrot. On a quand même bossé le sujet. On va essayer de poser les meilleures questions possibles. C'est vrai qu'à la base, on s'était vraiment posé la question de la musculation chez l'enfant. On se posait la question, est-ce que c'est nocif ou pas? Mais en préparant ce podcast, tu nous as dit, il y a quand même pas mal aussi d'autres choses qu'il faudrait parler. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par le commencement, peut-être?
C'est ouais, c'est les spermatozoïdes à 1000% hein, qui veut nous vendre, Vincent.
Les spermatozoïdes à 1000%. Non, non. Alors, en fait, c'est un sujet moi qui me passionne, même si je ne suis pas expert là-dedans. C'est très transversal à mon travail qui est la nutrition, la santé, le sport et le vieillissement. en gros, pour savoir comment les gens vieillissent, il faut aussi comprendre d'où ils viennent. L'enfance, c'est quelque chose de primordial dans la construction pour ensuite être en bonne santé. Un enfant, il se construit plusieurs années avant sa conception par l'état de santé des parents. Donc ça, c'est un problème, enfin, c'est un sujet. Ensuite, il y a la phase clé de la grossesse, qui est également un sujet primordial. Et bien ensuite, la petite enfance entre, disons, 0 et 6, 7, 11 ans. Ça dépend des changements hormonaux de l'enfant. Et ensuite, l'adolescence entre 11 et 17 ans. Puis après, de toute façon, la majorité, on ne peut plus rien pour lui, donc on s'en parlera pas de ça.
Mais donc, c'est vrai qu'on en parlait avec Pierre et toi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience que la santé des parents a un rôle et un impact. Comment ça se passe justement? Quel est l'impact? Est-ce qu'il y a des chiffres, des données? Comment tu as fait pour avoir ces relations justement?
Alors, ça, c'est des données épidémiologiques. Les parents qui sont en excellente santé, alors c'est plutôt, non, disons que de façon générale en recherche, ce qui est observé, c'est que les parents qui sont en mauvaise santé produisent, au sens biologique du terme, des enfants avec des pathologies, soit psychiques, soit métaboliques. Soit avec des retards de croissance, enfin avec, disons, des problèmes de santé qui sont assez forts. La problématique, c'est que les enfants, ils choisissent pas de venir au monde avec une jauge de vie, tu vois, qui est à moitié remplie. Donc ça, c'est la responsabilité des parents, mais pour que les parents se sentent responsables, faut aussi qu'ils sachent quoi faire. Et du coup, c'est ça que j'aimerais commencer par aborder. Puis après, on verra ensuite les problématiques pour les enfants et quoi faire quand ils sont jeunes. Déjà, ce qu'on observe, il y a beaucoup de choses qui sont... j'ai pris des notes parce qu'il y a mille trucs à dire.
Oui, c'est transversal. Ça va être ça, la complexité. C'est que c'est pas juste le sport, c'est pas juste la nutrition.
Et ouais.
Donc, trop de choses.
La sédentarité, d'une part. Si les parents sont sédentaires, attendez, je vais commencer par autre chose pour que vous compreniez un tout petit truc ultra important pour la suite, c'est l'épigénétique. Si les gènes, ce sont le chargeur d'une arme à feu, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. C'est une expression très connue dans le domaine de la recherche en épigénologie. Ce que ça veut dire par là, c'est que on porte tous en nous les adaptations génétiques pour aller vers tous les types de maladies possibles qui soient possibles pour l'humanité. Mais on porte tous en nous également toutes les protections possibles à ces maladies. Sauf erreurs génétiques particulières, et ça, on ne peut pas grand-chose par rapport à ça. Avoir un bon mode de vie permet de réorienter, d'un point de vue épigénétique, l'expression de nos gènes dans la bonne direction pour être en bonne santé et avoir de la prévention. Alors, comment c'est possible ça? C'est parce que, au niveau de la pelote d'ADN, l'ADN, en fait, c'est une pelote de laine. Les gènes, ils s'expriment seulement à la surface de cette pelote de laine. Ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas exprimés. Et en fait, les modulations épigénétiques, donc ce qu'on fait par notre mode de vie, le fait de faire du sport, le fait d'aller au soleil, ou alors, à l'inverse, le fait de regarder des écrans, ça va changer la configuration de cette pelote de laine, la conformation géométrique, un peu comme un Rubik's Cube qui change de côté, mais avec des rotations vers l'intérieur, et ça va exprimer ou non certains gènes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les adaptations épigénétiques. Bref, ces adaptations épigénétiques, j'ai perdu mon fil, vont... Oui.
Vas-y. C'était justement voilà. Pour nous expliquer, tu voulais partir avec une base pour nous expliquer après derrière pourquoi.
Voilà. Donc ces adaptations épigénétiques sont responsables à la fois de notre d'une santé protectrice et de maladies. Et c'est là le point super important pour les enfants. Les adaptations qui nous sont personnelles à nous, ensuite, lors de la reproduction, qui est la partie la plus plaisante d'avoir un gosse quand on a un gosse, c'est on le transmet à l'enfant. Donc ça veut dire que si vous êtes, par exemple, diabétique et dépressif, qui est une situation qui est compliquée à vivre, et vous faites un enfant à ce moment-là, la configuration des gènes les probabilités que des gènes axés vers la dépression ou des problèmes métaboliques pour l'enfant va exploser. C'est pas de la certitude, mais ça va exploser. À l'inverse, si vous êtes athlète de très haut niveau, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand des sportifs de haut niveau font des enfants entre eux, leurs enfants sont souvent, peuvent très facilement être sportifs de haut niveau également. Ça tient en partie de la génétique, et ça tient en partie évidemment de l'éducation. Un point clé que je mentionne de temps en temps dans un podcast, mais qui est important de savoir, c'est que les mamans sont elles qui transmettent les mitochondries dans 99,99% des cas. Alors, c'est injuste du point de vue de l'évolution, mais ça veut dire que la responsabilité du pool mitochondrial, qui est essentiel pour la santé des enfants, revient à la maman. Puisque les mitochondries donc qui servent à utiliser l'oxygène pour produire l'ATP et qui sont, disons, au cœur de... C'est l'un des marqueurs fondamentaux du vieillissement et c'est l'un des marqueurs les plus modulables pour aider les autres marqueurs de vieillissement à être atténués. C'est vraiment un point essentiel d'adaptation et de santé. C'est transmis seulement par la maman. Si la maman a une VO2 max de 30, qui est considéré comme quasiment normal bas aujourd'hui par les instances officielles, alors que bon, il y a 50 ans en arrière...
J'allais te demander, mais toi tu penses que c'est éclaté?
Ah oui, on s'est éclaté au sol. Hein, c'est,
c'est vraiment bas quand même, 30.
Oui, pour les gens qui... c'est un pool plasmatique là, c'est
30,
pas possible.
30, t'es essoufflé avant de monter les escaliers.
Ben, en fait, le problème, c'est que la vie sédentaire fait que les gens ont plus trop conscience de ce que c'est qu'être en bonne santé par rapport à ça, sur le plan respiratoire, cardio-respiratoire. Bref. Ben, en ayant 30, elle va fournir, à son enfant une petite quantité de mitochondries qui sont un peu désadaptées. Et sera beaucoup plus dur ensuite de remonter. C'est la raison pour laquelle la VO2 max, qui est très liée aux mitochondries, elle est très génétique. Si les parents ont une très grosse VO2 max, en particulier à maman, du coup, l'enfant aura aussi facilement une très grosse VO2 max. Et ça, c'est injuste pour le coup, parce que l'enfant, comme on sait que en dessous de 50 de VO2 max, sur le plan scientifique, on sait qu'en dessous de 25 de VO2 max, on a plutôt des effets délétères sur la santé. Le système cardiovasculaire n'est pas capable de compenser le stress de l'environnement. Et au-dessus de 50 de VO2 max, on voit des effets protecteurs sur le diabète, sur tout un tas de choses, au niveau de la psyché également. Une idée simple, c'est que la maman ait une VO2 max supérieure à 50, par exemple, tout simplement.
Et le papa, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors le pauvre, on a compris que la VO2 max, il peut pas, donc qu'est-ce qu'il peut faire lui pour aider son enfant à être en bonne santé?
Le papa, il peut aller acheter des œufs à la maman lorsqu'elle est enceinte. Non, alors... On va en parler parce que c'est important les œufs. Mais dans une certaine mesure, il y a pas longtemps, j'ai dans des anciens podcasts, j'avais raconté que les papas pouvaient transmettre plus facilement la force. Et en fait, alors là c'est ma faute, j'ai mal compris certains articles scientifiques et j'ai été repris par des collègues qui m'ont dit que c'est pas exactement ça. En fait, le problème c'est que c'est peut-être le cas. Mais pour l'instant, c'est trop incertain. C'est-à-dire que la probabilité que ce soit vrai, c'est de l'ordre de 10%. Donc, c'est assez bas. Ce que peut faire le papa, c'est avoir une très grosse densité minérale osseuse. Parce que la densité minérale osseuse a un impact important sur l'immunité acquise. Et donc, plus on a une immunité acquise forte, plus ensuite on peut tabasser des microbes très longtemps dans sa vie et donc vivre longtemps en bonne santé. C'est 50% le papa, 50% la maman, parce que l'enfant, en fait, il fait une moyenne des deux. C'est-à-dire que si le papa est un dinosaure avec une densité minérale osseuse de T-Rex, mais que la maman a une densité minérale osseuse d'un papillon, ça va moyenner, à la fin, on se retrouve avec finalement un enfant à peu près normal. Et si les deux parents ont une densité minérale osseuse supérieure, alors on a un effet très positif. Donc voilà. Après, bien sûr, l'aspect génétique global, c'est-à-dire que plus le papa est en bonne santé, de façon générale, plus derrière, la transmission de gènes, de par la nature même de l'épigénétique, puisque les gènes sont orientés, configurés de manière positive, sera bénéfique. Mais du coup, le seul point crucial vraiment, c'est peut-être la mitochondrie et le fait qu'au global, les deux parents soient en bonne santé.
T'avais fait un super épisode avec nous sur la santé mitochondriale et le fait que le travail d'endurance améliore la quantité de mitochondries et que le travail plutôt d'intensité fasse plutôt un tri. Donc on est plutôt sur du qualitatif sur la mitochondrie versus du quantitatif avec du travail d'endurance. Donc typiquement, ce qu'on pourrait conseiller à une femme qui nous écoute et qui serait dans un souhait de conception, ce serait de s'entraîner sur ces deux paramètres-là pour améliorer sa VO2 max et pour... c'est du concret, là.
Complètement, ouais. C'est en gros les recommandations pour la Z2. Là, je parlerai sous le contrôle de Sean Seal. C'est de faire à peu près au moins 3 heures de Z2 par semaine. Voilà. C'est le minimum pour avoir une VO2 max décente, qui soit protectrice pour la santé, qui configure les gènes dans une bonne direction pour ensuite être transmise à l'enfant.
Et si on veut être dans de l'optimisation, tu vois, là, tu nous dis vraiment la barrière, hein, donc la limite moins. Et si on aimerait justement se dire, ben non, je veux plus, je veux essayer de transmettre encore des capacités un peu supérieures.
Le 1000%, Vincent, ouais, il est où le 1000%,
tu le mettrais combien en termes d'activité physique? Et est-ce qu'on a des chiffres sur ça, sur une limite? On avait eu Fabrice Kuhn qui nous disait qu'à partir de 14 heures par semaine, ça commençait un peu à redescendre, à décroître peut-être les effets du sport, mais ce n'était pas non plus certain. Est-ce que toi, t'as une opinion sur ça ou un avis?
En fait, le problème pour ça, c'est autre chose. C'est que le problème, c'est que plus on fait du sport, plus il faut pouvoir récupérer derrière. Et à un moment donné, il faut quand même travailler pour manger. Et puis, il n'y a pas que le cardio. Il y a aussi la force. Il y a aussi d'autres qualités physiques à gérer. Mais on va dire, si je dois faire une recommandation à 1000%, comme tu dis, je serais plutôt sur du 8 heures par semaine.
De cardio. Et après, il y a un renfo. Ouais.
Non, alors, quitte à faire 8 heures de cardio, tu fais 5-6 heures de Z2 et tu consacres le reste à différentes autres intensités, donc Z4, Z5.
Okay. Et après, en termes de renforcement musculaire, alors on fait quoi? 2 heures par semaine, 3 heures, ça te paraît bien?
2 heures, ça suffit, ouais.
Ça suffit. Ok. Parce que là, on va aussi avoir un développement du pool mitochondrial en faisant du renforcement musculaire, ou est-ce que c'est pas comparable?
Alors, c'est pas comparable. Il existe, mais il est d'autant plus marqué que la personne est sédentaire. C'est-à-dire que tu prends un go muscu qui fait jamais de cardio, il va créer des adaptations mitochondriales. Ok. Et spécifiquement, comme il est sur des efforts très très courts, plutôt de qualité que de quantité. Mais vraiment essentiellement. Alors le problème, c'est la quantité souvent, et donc du coup, ben, si tu fais que de la muscu ou de la force ou disons des efforts athlétiques courts, moins tes mitochondries seront nombreuses, même si ce sont des super mitochondries.
Ok, ça marche. Et après, justement, pour les gens, pour toi, la sédentarité, ça commence à quel point, enfin, à quel moment? Là, on a parlé de 3 heures. Est-ce que pour toi, en dessous, on est directement sédentaire? S'il faudrait un petit peu alerter les gens sur une activité à avoir au minimum pour leur santé?
Par jour ou par semaine?
Voilà, en fait, c'est compliqué ça, parce que il y a beaucoup d'infos contradictoires sur ce sujet-là. Tu as des sportifs qui sont sédentaires, tu vois. Des gens qui font 15 heures de sport par semaine, mais qui ne bougent pas du tout. La marche a des vertus qui ne sont pas remplaçables seulement par la position assise du vélo. Tu vois, si je prends le vélo comme activité cardiovasculaire, ou du rameur, dans mon cas. C'est un espèce de cumul, mais je serais tenté de dire qu'il faudrait prendre les recommandations de l'OMS pour les enfants, c'est-à-dire minimum une heure d'activité par jour pour les parents, enfin pour les adultes.
Ok, bah écoute, on va faire la période sympa de reproduction, on va dire que là on est en train de batifoler, et là on arrive dans la période batifolons ensemble, et là on est dans une période maintenant de grossesse. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié déjà dans cette première partie? Vas-y.
Ouais, il y a
plein de trucs. Il est venu, il m'a dit attends, viens ici, alors, vas-y, dis-nous.
Alors du coup, bon, c'est vrai que si tu as un mode athlétique, un mode de vie athlétique, donc tu dors bien, tu manges bien, tu luttes contre ta sédentarité parce que tu es actif, donc bonne VO2 max, là t'as déjà fait une grosse partie du travail. Mais malheureusement, dans le monde moderne, il y a aussi le problème des perturbateurs endocriniens et des microplastiques. Et alors là, c'est extrêmement chiant, parce que même si t'es un super athlète, vraiment un athlète incroyable, je sais pas moi, on va prendre Dupont comme un athlète incroyable de rugby, et ben si à cause de son mode de vie il est en permanence exposé aux perturbateurs endocriniens et qu'il mange des microplastiques, ça va considérablement dégrader la santé du fœtus, et donc ça c'est un autre problème qui est tout seul à isoler. Il faut absolument donc quantifier son exposition aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un gros problème parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de questionnaire référence scientifique pour mesurer l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Moi, c'est un truc que j'ai construit de mon côté, tu vois, pour essayer de d'y voir un peu plus clair, mais ça n'est, c'est, je sais que c'est imparfait parce que il y a, ça n'est, c'est pas encore, ce n'est pas assez, c'est pas holistique, c'est ce qu'il faudrait. Et le second truc, c'est les microplastiques. Donc, les microplastiques, il y en a partout, dans l'eau en particulier. Le problème des microplastiques, c'est que ce sont une matière qui est inerte. Et qui passe à travers les filtres naturels que sont l'intestin, la barrière hémato-encéphalée, ou les reins, ou les, dans les tissus, etc. Et alors, pourquoi c'est un problème si c'est inerte? C'est parce que il n'est pas possible de les virer, puisqu'ils sont inertes d'un point de vue biochimique. C'est-à-dire qu'un macrophage, il voit un morceau de plastique, il n'en fait rien parce que il n'est pas conçu pour repérer un truc comme ça, malheureusement. Alors on va se dire, ok, ben c'est pas grave, à la limite, j'ai 10% de mon corps qui est en plastique, et tant mieux. En fait, le twist, c'est que pour une unité de microplastique, ça permet d'accoler à cette unité de microplastique beaucoup de toxines. Et en particulier les perturbateurs endocriniens, ils adorent les microplastiques, c'est une forme de super colle pour eux. Et donc, plus on est exposé aux microplastiques, plus ça fait exploser notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Et plus c'est difficile ensuite de les éjecter. Parce que, donc, les perturbateurs endocriniens, vous avez 40 000 trucs, mais au niveau biologique, ce qui va se passer, c'est que ça va, donc à l'échelle cellulaire, par exemple, ça va venir dénaturer la forme des protéines, ça va venir arracher des électrons. Enfin bref, c'est potentiellement tamponnable par des antioxydants. Comme la vitamine C, comme la coenzyme Q10. L'antioxydant le plus puissant du corps, c'est la glutathion L-transférase. Bon, ça va les tamponner. Mais ça va tamponner sur un truc. Hop là, salut Vincent.
Désolé pour le retard.
Pas de souci. On parlait des microplastiques. Et du fait que les microplastiques sont, ils servent de point d'attache aux perturbateurs endocriniens dans le corps. Du coup, un antioxydant, il va venir tamponner du coup le perturbateur endocrinien sur un rocher qui est inerte. Donc, le macrophage, lui, il va récupérer le rocher avec, parce qu'il va le manger pour l'exécrer, l'éliminer. Mais ça, la seule façon qu'a un macrophage d'éliminer un microplastique, c'est de partir en apoptose, c'est-à-dire de mourir, de se suicider, pour qu'ensuite il soit éliminé par les reins. Donc le processus existe, mais c'est très 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 lent. Et ça ne peut pas compenser le niveau d'absorption qu'on aurait, par exemple, s'il y a des microplastiques dans l'eau. Du coup, donc là j'en viens à la solution, qui est une solution à 100%, même pas à 1000%, tu vois, c'est juste avoir un filtre à eau. C'est un des premiers trucs fondamentaux pour éviter d'avoir des perturbateurs endocriniens et des microplastiques. Il y a d'autres choses, il y a d'autres solutions simples, mais l'une des plus simples à mettre en place, surtout au vu des risques sanitaires à l'heure actuelle qu'on a en France et qui sont mis de plus en plus en valeur, c'est un filtre à eau.
Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller, voilà. Nous, on veut tout, Vincent.
En filtre à eau.
Parce qu'on entend beaucoup de choses aussi, tu sais, Brita.
Il y a plusieurs équipes. Mettre un point sur l'eau aussi. Hein. Est-ce que l'eau, elle est là juste pour que ce soit
la
une molécule...
Merde,
la plus simple de la vie, ou est-ce qu'elle est là pour minéraliser notre corps?
Alors, il y a des minéraux dans l'eau, donc ça aide à minéraliser, même si le niveau d'absorption n'est pas forcément le même en fonction des minéraux qui s'y trouvent. Tu sais, par rapport à quoi? Tu me demandes ça par rapport aux osmoseurs inversés, là, et les trucs qui sont déminéralisés?
Ouais, moi, j'ai la Berkey à la maison, tu vois, mais après, quelle est la bonne stratégie, quoi?
Alors, j'ai eu par le passé une personne qui m'avait contacté parce qu'elle avait des soucis par rapport à ça, et elle avait installé un osmoseur inversé qui s'est mis à dysfonctionner au bout de 2-3 ans sans qu'il le sache, et qui a apporté plus de perturbateurs endocriniens qu'elle ne le faisait à la base.
Ah, c'est le risque.
Et c'est ça le risque, en fait, avec ces trucs-là. Moi, je suis plutôt pour les filtres à charbon.
Donc Brita, enfin ce genre de...
Ouais, Brita, Berkey,
mais par contre, de pas radiner sur le changement de filtre et le changer régulièrement, dès que ça commence à clignoter, même orange, on le change.
Ouais, c'est ça. Alors, y a des limites à ça. Faut, alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là par rapport à tout ça.
Vas-y.
Les principes, les filtres à charbon, c'est qu'ils se basent sur les forces de Van der Waals à l'échelle microscopique, qui sont des forces d'attraction simples, qui permettent à des molécules qui n'ont pas forcément d'affinité avec le charbon de se coller à lui. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et c'est la raison pour laquelle les filtres à charbon sont si efficients, sous condition que l'eau passe par le charbon, par un effet de gravité, et ensuite soit exfiltrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre une grosse crotte débile dans une carafe de charbon, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit un système filtrant, type les marques là en l'occurrence, mais il y en a d'autres. Ou le faire soi-même, ce qui peut être aussi possible, j'imagine, si on est bricoleur, oui.
Est-ce que tu vois une hiérarchie dans les filtres? Est-ce que pour toi, il y a quand même un système qui sort du lot dans ces filtres à charbon, dans ces marques?
Pas vraiment. Il y a... Comment il s'appelle?
Julien Vénesson.
Vénesson qui a fait une vidéo là-dessus, qui part d'une bonne intention. En plus, il a mis beaucoup d'argent là-dedans. Malheureusement,
j'ai... Il y a la police Fulono qui est arrivée.
T'as mis un commentaire, non?
Oui.
Ouais, j'ai mis un commentaire pour expliquer qu'il y avait plein de choses qui méthodologiquement n'allaient pas au niveau de la façon dont ils ont mesuré ça, parce qu'ils étaient très alarmistes sur le fait en disant que c'était que du marketing, que ça marchait pas. Alors non, ça marche. Et la méthodologie qu'ils ont employée ne suit pas des protocoles scientifiques classiques. Donc du coup, c'est intéressant. C'est un peu comme une étude pilote, mais il faut pas prendre de décision ou juger à partir de là. Et il a pas aimé mon commentaire, donc il l'a supprimé. Et donc il y a quelqu'un d'autre qui l'a remis derrière.
Il a pas lu le passage où tu lui disais que c'était intéressant quand même. Du coup, tu sais.
Je sais pas. Bon,
l'intention
après,
était louable. C'était ce que tu marquais. Il me semble hein, que le...
Moi, oui, la démarche était. J'ai une petite question, c'est que je suis en retard. Je suis désolé, oui. Je suis en retard, mais quand même le sujet, on me parle les enfants, la musculation, et là j'entends les microplastiques, le filtre à eau. Ouais, il y a une trame où vraiment on s'envole.
Non, on s'en va pas du tout. En fait, la base. Pour avoir des enfants en bonne santé, c'est que les parents déjà sont en bonne santé. Et donc, on a quatre phases. Phase 1, les parents avant la conception. Phase 2, la grossesse. Phase 3, la petite enfance. Phase 4, l'adolescence.
Merci, voilà. Voilà.
VO2 max de la mère.
Petit résumé.
Et ouais. Exposition aux perturbateurs endocriniens de limiter.
Non-exposition.
Voilà, je voulais justement, moi, excuse-moi Pierre de te couper, mais tu n'as pas donné de conseils justement par rapport à ça. Est-ce qu'au niveau, tu vois, peut-être des aliments, de la lessive, du lave-vaisselle, est-ce qu'il y a des choses justement sur lesquelles il faut faire attention, des objets qu'on soupçonne même pas? Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns justement?
Le top 5.
Enfin, je pense même le poulet, tu vois, je vois souvent le poulet en plastique, tu sais, les blancs de poulet qui sont enfermés dans une barquette en plastique. Est-ce que ça, tu vois, est-ce que déjà il n'y a pas du plastique qui va rentrer à l'intérieur?
Ça migre.
Alors, typiquement, le problème des aliments qui sont emballés dans du plastique, c'est qu'ils vont vous nourrir de microplastiques. Il n'y a pas forcément de perturbateurs endocriniens, mais c'est un problème, ça, déjà, selon soi. Donc, il faut éliminer le plus possible le plastique de la vie des aliments. Le plus possible, hein, on s'entend, mais ne surtout pas faire réchauffer les aliments en micro-ondes dans des conteneurs en plastique. Tout ce qui est contenant, idéalement, c'est dans du verre ou dans de l'inox, et jamais du plastique. Faut jeter les contenants en plastique. Le problème, c'est que en le jetant, il va se retrouver à la poubelle, et 3 mois plus tard, il va se retrouver dans le ventre d'une tortue de mer. Donc c'est vraiment un infernal, ce cercle-là. Mais dans tous les cas, oui, il faut absolument faire attention à ça. Au niveau des produits ménagers et des produits alimentaires, donc les produits alimentaires, il y a l'ultra transformé. L'ultra transformé contiennent des produits toxiques qui peuvent être des perturbateurs endocriniens ou des cancérigènes. Certains édulcorants, pas que ça, mais il y a plein de trucs comme ça. Au niveau des produits ménagers. Nettoyer simplement avec du savon noir, du vinaigre blanc, de la soude, des choses ou de la javel aussi, même s'il faut faire attention avec la javel. Savon de Marseille, c'est très bien. Mettre des gants quand on nettoie, parce que même si vous mettez des gants en plastique, au moins vous n'exposez pas les mains à trop de produits chimiques lorsque vous nettoyez. Et puis ensuite, vous pouvez facilement vous laver les mains pour virer les microplastiques qui sont à la surface de votre peau. Choses simples comme ça. Au niveau des produits cosmétiques, alors là c'est le drame pour la gente féminine. Alors, je sais que c'est dur à entendre, mais les femmes ne sont pas conçues pour être maquillées. Hein. Normalement, nous, les mecs, on est censé quand même les trouver belles sans maquillage. Et on a mis dans la tête des femmes, et aussi dans la tête des hommes, qu'elles ne pouvaient être belles que parce qu'elles ont un maquillage sur elles. En tout cas, ça marche beaucoup comme
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, les belles femmes, c'est celles qui sont belles dès le matin, quand même. Hein. La mienne, elle est exceptionnelle.
Voilà, attention de ne pas être border, les gars.
Un petit bisou. Je vois venir. Ma femme, voilà. Je trouve trop belle dès le matin. Je t'aime.
Et dans maquillage, il y a quoi d'autre? Donc, tous les maquillages,
mais,
produits.
Mais surtout,
les crèmes.
Les produits. Ce que les vous crèmes, avez ouais. oublié, les gars, c'est quand tu repeins ton salon et que tu restes dedans, c'est sûr que ça sent bien la peinture fraîche, mais ça sent pas vraiment ça. Hein. C'est, ça sent les perturbateurs endocriniens. Donc, un. Et deux, j'ai vu une mode, et je pense pas que c'était ça, les gens qui font du béton ciré avec de la colle à carrelage. Et je voyais les... Donc, c'est super. Donc, ça, le rendu est très beau. Sauf qu'il y a un artisan qui disait, oui, c'est magnifique, mais par contre, la colle à carrelage, c'est pas fait pour ça, en fait, les gars. Donc, vous marchez chez vous, vous avez un sol qui est jonché de... Enfin, qui se détériore. Il y a plein de microparticules qui finissent dans l'air. Et donc, c'est catastrophique. De même chose que les chaussures qui viennent de l'extérieur et qui vous amènent à l'intérieur aussi. Je pense que...
Ouais, l'air c'est intérieur, c'est... Pour l'instant, des enfants aussi.
L'air en milieu intérieur, c'est un vrai sujet.
L'air en milieu intérieur, le sol en milieu intérieur, le nettoyer régulièrement pour éviter que... Parce qu'en fait, les déchets naturels, qu'est-ce que c'est qu'on voit la poussière au sol? C'est souvent de la peau morte. Cette peau morte, elle a tendance à capter les toxines ou les déchets qui viennent de l'extérieur. Donc, il faut absolument nettoyer régulièrement. Donc, nettoyer une ou deux fois par semaine sa maison au sol. Le sol, ça mange pas de pain pour éviter l'exposition. Et encore plus quand on a des enfants. Bien sûr, parce qu'eux, ils passent leur vie le nez au sol.
Et après, lessive, liquide vaisselle, on n'a pas trop parlé ouais. encore, mais parce que alors, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup aussi dans le quotidien.
Ouais, en fait, à partir du moment où vous avez. Liquide vaisselle, ça va à peu près si c'est du savon, enfin si c'est assez neutre. Le problème principal, surtout, c'est ce avec quoi on se lave et à quoi on s'expose au niveau de la peau. Donc, les crèmes, les produits nettoyants, tout ce qu'il y a. À partir du moment où il y a des fragrances, fragrances. Dans les produits, ce sont des choses qui vont coller à la peau et qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc le petit savon de Marseille qui est à la fleur de je sais pas quoi, perturbateur endocrinien. C'est difficile de trouver des produits qui sont complètement neutres par rapport à ça. Il n'y en a pas tant que ça sur le net. Le mieux, c'est les savons durs, type savon de Marseille original à l'huile d'olive, où il y a zéro saveur spécifique dedans, zéro fragrance dedans.
Et j'imagine que déodorant, parfum.
Il y a certains déodorants qui existent sans fragrance. Tout ce qui est spray, c'est mort. Les parfums, c'est mort dans toutes les circonstances.
Voilà. Non, ça marche. Okay. Non, mais c'est intéressant de au moins le savoir. Après, chacun fait ce qu'il veut de l'info, mais voilà.
C'est ça. Oui. En fait, le problème, c'est l'effet cocktail de ces trucs-là. C'est-à-dire que le corps peut tamponner une certaine quantité de ces perturbateurs endocriniens par jour, mais il faut choisir le poison auquel on s'expose. On peut pas tous les prendre en même temps. D'accord. Donc, si vous voulez mettre un peu de parfum parce que c'est votre truc, ok. Mais à côté, ne mettez pas 25 crèmes pour le visage. Nettoyez-vous avec des savons neutres. Nettoyez régulièrement votre baraque et évitez de mettre des contenants en plastique. Si votre petit plaisir à vous, c'est l'odeur du plastique chaud mélangé au fromage et à la purée, ok. Mais dans ce cas, pareil, faites autre chose à côté pour éviter ça.
On est à peu près sur les mêmes valeurs chaque fois, ou est-ce que pour toi il y en a vraiment un qui est au-dessus et qu'il faut vraiment enlever à tout prix? Ouais, est-ce qu'on est à peu près sur des valeurs similaires pour tout ce dont on a parlé?
Non, il y en a deux qui sont prioritaires par rapport à tout le reste. L'hygiène, donc nettoyer sa baraque et aérer, et l'eau. Parce que c'est par l'eau et par l'alimentation qu'on se nettoie. Notamment le fait de manger des fibres. Quand on mange des perturbateurs endocriniens, quand on mange des fibres, les fibres récupèrent les perturbateurs endocriniens et les empêchent de rentrer dans le système digestif ensuite dans les tissus. Donc déjà, c'est manger des fibres et protecteurs. D'accord ? Là, les carnistes, ils vont aller se prendre, probablement, en entendant ça. Second point...
Attention aux autres salades, Vincent.
Aucun commentaire là-dessus. Ensuite, l'eau. Pourquoi c'est important ? Parce que le premier organe, enfin celui qui va filtrer in fine des trucs qui se trouvent dans votre corps, c'est vos reins. Et donc, plus vous allez boire d'eau, plus ça va permettre de filtrer les reins progressivement. Les reins vont pouvoir pardon, filtrer les saloperies progressivement. Mais c'est un processus qui est extrêmement long. J'avais fait le calcul... bon, je vais pas ressortir la fiche, c'est pas grave. Mais j'ai fait le calcul pour l'aluminium, quand on a une intoxication aluminium. Le fait de... Il y a une procédure à suivre en plus. C'est-à-dire que le fait... Il faut boire quelque chose qui contient du silicium. Donc une eau riche en silicium pour aller en fait comment dirais-je il faut imaginer que
comme aimanté quoi
ouais je prends l'analogie d'un arbre et d'un pommier d'accord on veut ramasser les pommes l'arbre c'est le tissu les pommes c'est les perturbateurs endocriniens et en particulier donc l'aluminium le fait d'aller boire du silicium ça permet de faire tomber les pommes mais ensuite il faut les ramasser pour les amener ensuite au rein. Ce qui va les ramasser, c'est le citrate. Un demi-citron suffit amplement. Un demi-citron, même un quart de citron suffit très largement. Parce qu'un citron, c'est déjà 100 fois la dose de ce qui est nécessaire. Donc un quart de citron suffit amplement. Et évidemment, il faut aller avec ce citron, il faut de l'eau pour ramener vers les reins. Donc si vous avez par exemple une contamination à aluminium, il faut, premier cas, aller saisir la zone avec de l'eau silicatée. Et ensuite, boire de l'eau citronnée pour vasculariser et éliminer par les reins. Et astuce supplémentaire entre les deux, donc entre le moment où on boit de l'eau silicatée ou d'une source de silicium et le moment où on boit de l'eau avec du citron, il faut faire du cardio basse intensité pendant au moins une demi-heure, histoire de vasculariser à max pour que toutes les pommes partent dans le système d'évacuation.
Et ça, pour moi, Vincent, là, c'est pas 1000%, c'est le métavers. Je suis intoxiqué à l'aluminium déjà comment je le sais cette stratégie tu vois c'est là je comprends
est-ce qu'il y a des tests voilà. Excuse-moi Vincent mais est-ce qu'il y a des tests pour savoir justement les perturbateurs endocriniens l'aluminium est-ce qu'on peut tester tout ça ou c'est difficile à savoir
alors c'est le seul cas où je considère que pour le coup les prises de sang sont utiles faire une prise de sang pour savoir si on est contaminé à des métaux lourds ça c'est quelque chose qui est très difficile de mesurer cliniquement avec un questionnaire. Et donc, dans ce cadre-là spécifiquement, c'est intéressant de le faire, et d'autant plus dans la société moderne.
Juste les métaux lourds, alors. Métaux lourds, c'est un bon indicateur.
Ouais, pour moi, ça fait sens, ouais.
Mais on pourrait s'intoxiquer. Les méthodes d'intoxication, c'est cuisiner en papillote à l'aluminium. Là, les pommes de terre, on se fait ça. Voilà, c'est dès qu'on met de l'aluminium chaud, enfin, en contact avec un élément qui est chaud, ça migre.
Ouais. Ouais. Mais alors, je préviens, la méthode que je viens de vous donner, ça ne marche que pour l'aluminium. Ça ne marche pas pour d'autres métaux lourds comme le plomb, où c'est beaucoup plus long. Et je n'ai pas donné les chiffres. C'est-à-dire qu'en faisant, j'ai fait la quantification, j'ai fait des calculs, mais en faisant ce procédure, donc, une quantité suffisante de silicium, donc en gros, je n'en rappelle plus, c'est l'équivalent de... Il y a une eau qui est très silicatée. En gros, c'est l'équivalent de boire 2 litres de Volvic. La Volvic, il y a du silicium dedans, mais il y a une eau qui en contient plus, par exemple. Donc, vous buvez 2 litres de Volvic. Vous faites une demi-heure de Z2. Vous mangez un quart de citron avec un petit peu d'eau après. Vous laissez ça éliminer par les reins. Vous faites ça tous les jours pendant un an. Vous divisez seulement par 2 la quantité d'aluminium.
C'est toujours mieux que rien.
Notre corps n'a pas les capacités de chélater l'aluminium, même si on a une stratégie de détoxication du foie, tu vois, qu'on vient augmenter un petit peu le pouvoir antioxydant de notre corps. Tu penses pas que notre corps est assez puissant pour gérer ce stress?
Justement, c'est le fond du problème, c'est que il y a trop d'exposition à trop de trucs. Donc le corps est complètement dépassé. L'aluminium, c'est une molécule. Les molécules issues de la pollution, la bouffe industrielle, de façon générale, les radicaux libres produits par le stress, si on est stressé, qu'on dort pas assez, il faut que le foie gère tout ça, il peut pas, malheureusement. Et donc les rares études qui ont été faites pour voir le temps que ça prend de désintoxiquer quelqu'un à l'aluminium, c'est 2-3 ans.
Ça prend du temps.
Pensez à toutes les bougies d'intérieur aussi, le papier d'Arménie, tout ce qui crée la combustion.
Même le petit film en plastique, là, tu sais, sur le, quand on, après son repas, là, sur son assiette, on met un petit fil en plastique. Je sais pas, les gens qui font ça, je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Moi, je mets juste une assiette dessus, ça suffit à l'envers et ça marche très bien pour éviter que ça sèche.
Alors, ça oui, mais il faut pas que ça touche la nourriture.
Parce que moi, il y en a certains qui disent que même juste le fait de le mettre, ça, il y a quand même un déplacement de microplastique.
Oui, si t'as de la vapeur dessus, machin.
Ouais.
Il faut pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous faites 80% des choses qui sont bien par rapport à 100%, enfin, du coup, à 0%, c'est déjà essentiel. Par exemple, les filtres à eau, vous pouvez boire de l'eau normale à côté. Mais si 80% de votre eau est filtrée, déjà, ça règle la majorité du problème pour votre foie et sa capacité à détoxifier et à tamponner.
Déjà, du bon sens. Tu donnes de l'espace, en fait. Déjà, tu te donnes de la capacité en plus à gérer les autres problématiques, finalement.
Comme le café, hein, le café aussi, boire du café à haute dose, ça va aussi surcharger notre foie, la caféine qui est aussi...
Après, plus on a de la VO2 max, plus on a des qualités métaboliques élevées, plus on a un foie en bonne santé, plus on peut tamponner.
Allez faire du cardio alors. On avance un petit peu les gars, parce que là on est juste avant la reproduction.
C'est très vaste. Mais du coup, ouais. Donc les parfums d'opinion, c'est le sujet. Et la seule chose à faire, si vous avez les deux seules choses à faire, c'est avoir une hygiène de votre maison qui soit excellente et à filtrer votre eau.
Donc presque s'y mettre 2 ans à l'avance alors presque, si je comprends bien, à faire attention.
Là, c'est mon point, c'est que si ça prend du temps, parce que c'est très long, la désintoxification, enfin c'est pas vraiment le terme, mais le fait de
se désempoisonner,
ou diminuer l'exposition au perturbateur endocrinien, il faut s'y prendre 2-3 ans à l'avance.
Et manger bio, est-ce que pour toi c'est un garde-fou aussi à l'exposition aux polluants, aux pesticides?
Aux pesticides un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a un terrible... voilà, mon Dieu.
T'as le droit que de dire oui ou non, Vincent.
non, mais il y a un terrible rapport des autorités françaises qui est sorti là cet été dans le domaine de l'épidémiologie et de l'alimentation, qui montre par exemple que tous les produits laitiers, bio ou pas bio, sont contaminés aux métaux lourds. Les poudres pour les enfants également. Les de chèvres, les d'ânesse, tout. Ce qui veut dire qu'il y a une pollution systémique de l'environnement qui n'est pas contrôlable par la labellisation bio. Ce que je dis là, ça concerne le lait. Je ne sais pas si c'est vrai pour les pesticides, pour les fruits. Mais mon point, c'est qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça.
Donc, on nettoie les fruits et légumes, là, comme on fait avec le bicarbonate. Tu le fais, toi, personnellement, ou pas? Ouais.
Alors, si vous mangez des fruits avec des grosses peaux, orange, kiwi, on s'en fiche. Et si vous mangez la pomme avec la peau, oui, ça, faut le faire.
Tu ne sais pas parler du téflon, mais tu n'as pas de conflit d'intérêt avec une marque de casserole, j'espère.
Non, il n'y a rien à faire. Le téflon, il ne faut juste pas en prendre. Les ustensiles de cuisine, c'est important. Évidemment, si vous avez des ustensiles de cuisine qui sont rayés, il faut les jeter et en acheter d'autres. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ça coûte très cher, ces conneries. Acheter des trucs de qualité, ça coûte en général très très cher. C'est plusieurs, ça coûte au moins 100 euros, c'est clair.
La fonte, c'est ok, Vincent? Fonte inox?
C'est ce qu'il y a de mieux.
Inox, okay. Non?
L'inox, en fait, le problème, c'est la façon dont c'est construit, ces trucs-là. Il n'y a jamais que de l'inox. Il y a toujours une espèce de couche de conducteur. Et c'est dans ces conducteurs que se trouve, l'aluminium ou des métaux lourds. Mais si c'est bien fichu, normalement, c'est protecteur. Et ce qu'il faut, c'est surtout ne jamais mettre des coups de fourchette ou des coups de couteau dans la poêle pour...
Ça marche. Bon, on passe peut-être à la grossesse. Je vois que Pierre a encore une dernière question.
J'ai investi dans une poêle en fonte. Déjà, ça m'a coûté...
La peau du cul.
La moitié d'un de mes bijoux de famille. Et surtout, c'est extrêmement lourd. Hein. Je vais avoir des bras...
Ça va être exceptionnel. Biceps, ça va être extraordinaire.
C'est vraiment lourd. Je pense qu'elle pèse 4 kilos, la poêle. Franchement, c'est exagère pas.
Et une stratégie, sinon, il faut graisser la fonte pour qu'elle reste. Non, il y a pas
culottée.
Un truc. Ouais, c'est ça, exactement.
Et tu mets un fat grip bleu sur la poignée, comme ça, c'est encore plus dur.
Il va faire ça.
Bon.
Allez, partons sur la grossesse. Alors,
moi, j'avais juste une petite question. Ouais. Je crois que sur un épisode, tu avais dit la VO2 max pour la mère, pour les mitochondries. Ouais. Et je pense me souvenir que tu avais dit la force et la force max pour l'homme, mais moi, dans ma tête, c'est une question qui est restée là et j'ai jamais eu la réponse.
On a abordé ça juste
avant. Il est revenu dessus, ouais.
C'est quoi le principe?
Les auditeurs.
Il faudra écouter le podcast, notre collègue. Vincent,
il n'assume pas son mulet et ensuite, il vient en retard.
Il est un peu cuté là, vous avez vu?
Ouais. Il vient en retard pour l'épisode. Vincent, il fallait être là.
Il regardera, tu regarderas, mais ça, on en a parlé justement, il en a parlé.
Il a envie de me dire, mais c'est le moindre répondre là.
Je te dirai après, mais c'est déjà trop long là.
Bon, en tout cas,
sur la grossesse, alors Vincent, qu'est-ce qu'on met en place? À quoi on fait attention? Est-ce que c'est une période aussi décisive? On a parlé de l'avant, à la grossesse, sur quoi on joue, activité physique aussi, nutrition, c'est quoi pour toi le tout, j'imagine, c'est encore, comme disait Pierre, transversal.
Ouais, alors pour le coup, il faut éviter les excès de tension mécanique parce que ça augmente la pression artérielle et ça peut faire des chutes d'organes et donc du coup le bébé il passe à la trappe. Donc faire attention par rapport à ça.
C'est-à-dire, tu peux développer s'il te plaît ?
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la maman a fait du crossfit en faisant des arrachés à 70 kilos, faut qu'elle se calme.
Ok. Même si elle a l'habitude d'en faire, pour toi, il faut quand même faire attention.
Ouais, en fait, tu prends une haltérophile professionnelle. Comme ça, on prend l'exemple archétypal. Donc la nana, elle a une arrachée à 80 kilos. Élite. 80 kilos, c'est son 1RM. Donc c'est ce qui met le plus en tension son système, ses pressions internes. Donc, en gros, ne jamais travailler à plus de 70%.
Oui, voilà, on met de la nuance problème. Parce qu'il y en a, ils vont se dire non, je fais pas de sport, je les connais. Hein. Ils vont se dire, ah, j'ai entendu, il faut pas faire de force justement quand on est enceinte. Pour ça, c'est déjà un bon repère.
Alors, moi, c'est de ce que je comprends des considérations physiologiques. Mais si tu entends, si tu écoutes certains médecins sur le sujet ou d'autres spécialistes de la question, ils vont te dire zéro activité. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sujet tranché dans la recherche scientifique sur ce sujet-là. C'est. Si la maman pense qu'elle prend un risque, autant qu'elle ne le fasse pas. Si elle est vraiment addict au sport, de ce que moi je comprends, c'est au maximum 70%. Parce qu'à 70% du 1RM, on est quand même loin des niveaux de pression d'un, parce que c'est exponentiel ces trucs-là, d'un 1RM ou d'un quasi 1RM.
Là, on parle un peu de l'extrême. La fourchette dans laquelle il faudrait se situer, tu m'as donné la partie haute qui paraît être un peu l'extrême. Je ne pense pas que ça parle à beaucoup de femmes ou de se dire qu'elles vont faire des arrachés à la salle, mais de se dire, par exemple, à la maison, je fais où je vais à la salle de sport et je continue de faire un peu de squat, des fentes, où
70%,
se
situer. Pareil.
70% de ce que tu avais l'habitude de faire.
Voilà. Pendant un an, faire ça, voilà. Être travaillé en sous-max, tranquille, plutôt des séries un peu plus axées hypertrophie, si elles ont envie, donc un peu moins lourd.
De l'endurance, voilà. Hypertrophie plutôt que de la force, voilà. Ce qui paraît logique.
Et sur le côté cardio, est-ce que aussi il y a des préconisations à faire en termes d'intensité aussi ou en termes de volume ?
Alors pareil, éviter trop la course à pied en excès. Hein, le gamin, il va se dire
il va être secoué en fait.
Il va être un peu trop secoué.
Alors, au tout début, ça peut peut-être y mettre bien.
Pendant le premier trimestre, ça n'a aucune importance, mais après les deux secondes trimestres, c'est faut faire vraiment prendre plus attention par rapport à ça. Le mieux, c'est les activités portées, donc vélo, même rameur, ski, ouais, non, ski.
Ouais, l'elliptique même, comme ça vous avez moins d'impact.
Oui, l'elliptique, ça marche bien, ouais. En fait, il faut considérer que c'est une espèce de période spéciale de prépa physique, la grossesse. Pendant 9 mois, on ne fait plus trop ce qu'on faisait d'habitude, voilà.
Parce qu'on a vu qu'avant la reproduction, on transférait un capital. Là, ouais. Le capital, il est là. Sur quoi on joue justement avec notre mode de vie sur l'enfant ? C'est quoi l'impact qu'on va avoir ?
Alors là, la problématique, c'est le développement pour l'enfant. Il est en train de se développer de A à Z, littéralement. Et donc, ça met en branle le système immunitaire de la maman. Donc, il faut que la maman mange correctement. La moindre carence nutritionnelle est désastreuse, en particulier en iode, en fer, en folate, en choline. Et à l'inverse, les excès, œufs. Ouais. Et les œufs, on a fait sur le QI en particulier. À l'inverse, les excès, et en particulier en sucre, sucrose et fructose, sont délétères pour la santé cognitive de l'enfant et un peu métabolique aussi. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, parce que j'ai pris les chiffres exacts. Ça veut dire que pour le fructose. Ah oui, parce que les recommandations de l'ANSES, c'est maximum 50 grammes de fructose par jour, d'accord, pour les adultes. Et il faut diviser par deux pour les enfants. Mais les recommandations de la recherche scientifique, c'est 25 grammes de fructose. Et pourquoi ? Parce que typiquement, quand on donne 50 grammes de fructose à consommer par jour à des femmes enceintes, qui n'ont pas particulièrement de troubles, de problèmes de santé, c'est moins... Combien déjà ? Moins 1,5 points de QI sur l'enfant à la naissance, de base. Et c'est en fait, au-dessus de 25 grammes, c'est moins 1,5 points tous les 15 grammes de fructose. À peu près. Oui, ça part vite, hein, le QI. Et ça, c'est pas un truc qui est facile à avoir et ça part vite. Donc, ouais.
Vincent, t'es pas en train de nous faire un plaidoirie pour le régime cétogène, j'espère, là.
Non, pas du tout.
D'accord. J'ai cru que t'allais t'engouffrer là-dedans, hein, parce que je te voyais venir.
Non, le fructose est extrêmement d'ailleurs important dans le premier trimestre de la grossesse, donc il en faut. Faire un régime cétogène, c'est catastrophique pour une maman, pour l'enfant en tout cas, surtout sur le premier trimestre. Il y a beaucoup de fausses couches à cause de ça. Donc il faut du sucre, du glucose, ok, mais du fructose spécifiquement, faire attention. Consommer des fruits, il y a aucun souci, mais encore une fois, dépasser les 25-30 grammes de fructose par jour. Alors, en situation de sédentarité, parce que ça aussi, ça vient changer un peu les choses. Si vous faites rien de la journée, dépasser 30 grammes ou 25 grammes de fructose, c'est trop. Ça commence à être un début de risque.
Ça équivaut à quoi 30 grammes de fructose en fruits
Ça va assez vite, hein, dans une pomme.
De banane, même pas.
Attends, je vais te prendre une pomme. Putain, je sais plus ce truc-là. J'ai trop de chiffres en tête maintenant.
On va vous donner l'info maintenant, là. On va chercher.
J'aurais dit 10-15.
Il y a 7 grammes de fructose dans 100 grammes de pomme.
Ok. Ouais, donc d'accord. Ça va vite, hein.
Idem poire, ouais. Et idem banane.
Donc 2 fruits par jour, quoi.
Ouais.
2 fruits par jour. Bon, c'est pas mal.
Par contre, les petites baies, vous allez en avoir beaucoup moins. Hein. Fraises, framboises, myrtilles.
Mais, et c'est là du coup que j'insiste sur la partie cardiovasculaire, si la maman continue de faire du cardio à hauteur, disons, d'une demi-heure, une heure par jour, une heure d'activité, si elle a un bon niveau, ça va représenter un apport en glucides de 40-50 grammes. Et sur les 40-50 grammes, ça peut être 25-30 grammes de fructose sans aucun souci.
Okay.
Et là, ça n'a aucun impact négatif.
Je ne sais pas si on en a parlé de la haute intensité ou de la très haute intensité pour les mamans sur le cardio. Est-ce que aussi on reste sur que de la zone 2, zone 3 ou est-ce qu'on peut
zone
aussi...
Zone 2, zone 3, zone 4. Mais dès qu'on commence à rentrer en zone 5 et on change la cinétique cardio-respiratoire de la maman à cause d'un excès de pression artérielle qui ne peut plus être géré, il faut faire attention par rapport à ça.
Il faut du bon sens. Et la marche dans la pratique cardio, tu la prends en compte? Ouais.
Ouais. Il faut marcher, mais ça peut pas être que ça.
Oui, bien sûr.
Et juste sur l'intelligence de l'enfant, c'est vrai que là, je reviens de vacances et j'ai vu justement une pub que j'ai envoyée aux garçons sur la FIV et il disait choisissez 50% de l'intelligence dépend de vos gamètes, en gros. Faites le bon choix. Et c'est quoi, là, justement, pour toi, ta vision de l'intelligence au niveau génétique et de la transmission des parents? Parce que c'est vrai qu'il y a ce mode en ce moment où on voit de plus en plus que l'intelligence dépendrait de la génétique et que, voilà, on pourrait choisir en fait les gamètes et pousser dans ce sens-là. Pour toi, c'est quoi ta vision de l'intelligence avec ce rapport génétique?
Il y a une...
C'est bourbier, hein. Vincent, il faut que tu te sortes de là. Et
non,
c'est
mais
ça
tu peux simplement. Enfin, je te pose la question, mais je suis désolé, je ne sais même pas si tu as la réponse ou pas. Hein. Mais ça revient beaucoup, en fait. Moi, ça me surprend. J'ai l'impression qu'on met beaucoup l'accent sur la génétique. Comme on a mis aussi l'accent aussi sur les Kenyans aussi, sur leur performance en course à pied. On disait c'est la génétique, alors qu'on a vu avec Blaise qu'il y avait quand même d'autres facteurs environnementaux qui rentraient quand même bien plus en ligne de compte. Est-ce qu'on surestime peut-être pas aussi la part de génétique sur l'intelligence par rapport à l'éducation et l'apprentissage qu'on peut avoir derrière?
Alors, il y a une composante génétique à l'intelligence, ok. Et en fonction de ce que disent les recherches scientifiques sur le sujet, la façon dont c'est mesuré, on considère que l'éducation, tout le processus éducatif, hein, donc de 0 à 20 ans, ça peut faire gagner jusqu'à 40 points de QI à un enfant. Au max du max du max. Et si on est, raisonnable, qu'on prend, on met de l'eau dans son vin, c'est la moitié, c'est 20 points de QI. 20 points de QI, c'est beaucoup quand même. Hein.
Il n'en a pas parlé, mais est-ce qu'avant aussi de développer un petit peu peut-être ses capacités cognitives, avant la reproduction, dans justement cette optique de transmission génétique, est-ce que là, ça peut avoir un sens comme on avait vu sur le cardio ou c'est plus... c'est pas
non,
pareil.
En fait, c'est lié à des considérations métaboliques dans le cerveau, liées à la production de BDNF, qui est une molécule qui permet d'augmenter la production de neurones et la régénération des neurones. Et ça, c'est lié à tes qualités métaboliques, donc c'est lié à ton cardio, littéralement.
Ok. Je vais encore faire du cardio pour rendre mon enfant intelligent.
Non, mais j'y peux rien. Alors, juste pour être clair sur les définitions, l'intelligence, c'est la capacité que nous avons à intégrer des informations sur le monde. Ok, pour pouvoir adapter notre comportement et et trouver une solution à un problème.
C'est la capacité d'adaptation presque, en fait. Être intelligent, c'est savoir s'adapter, on peut dire ça ou...
Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que, par exemple, un étudiant qui répond à une question qu'il avait anticipée à un examen, fait preuve d'intelligence, mais il fait encore plus preuve d'intelligence lorsqu'il répond à une question qu'il n'avait pas anticipée. La raison pour laquelle on dit pas aux étudiants pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'il y aura à l'examen exactement. Un médecin qui répond de façon automatique à un patient ne fait pas preuve d'intelligence, il fait preuve d'automatisme. Un médecin qui raisonne par rapport à une problématique nouvelle fait preuve d'intelligence. C'est subtil la différence.
Et bah, après, donc, Au niveau de la grossesse, est-ce qu'il y a autre chose qu'on on a dit de faire attention aux fructose, activité physique? Vas-y.
Alors, juste mon point par rapport à l'intelligence, c'est que, parce que ça, c'est aussi, c'est un truc qui est souvent attaqué d'ailleurs par des gens qui ont une idéologie douteuse. Le QI, que ça plaise ou non aux gens, est le meilleur proxy de l'intelligence, à l'heure actuelle, en science. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du QI, du quotient intellectuel, c'est le meilleur proxy de l'intelligence générale qui est définie en neurosciences. Et c'est comme ça. C'est pas grave.
C'est de l'intelligence, enfin, sur le point cognitif. Je suppose qu'il y a différents domaines d'intelligence.
Ouais, mais c'est vachement transversal, le QI, non?
Oui, c'est très transversal. Il y a absolument toutes les coordinations neuro. Donc, ça va les qualités émotionnelles, l'interaction émotionnelle, les qualités d'interaction sociale, les praxis, la coordination fine, l'anticipation. Il y a absolument tout. La mémoire également. Et ce qui est intéressant, c'est que, à moins d'un trouble particulier, pour une personne normale, on peut pas avoir une mémoire d'éléphant et être nul ailleurs. En général, tout est à peu près monte en même temps. Donc, si quelqu'un est par exemple très très mauvais sur un point spécifique dans les différentes formes, on va dire, de fonctions cognitives,
il n'est pas très bon ailleurs.
Exactement.
Nous, on espère qu'on est dans la moyenne haute quand même.
La moyenne, ça passe. Hein.
Le QI moyen en France, c'est 98. Le QI moyen mondial, c'est 85. On considère qu'on commence à entrer dans le monde des attardés mentaux à partir de 85. Et la trisomie légère à partir de 80.
Et est-ce qu'il y a eu une augmentation du QI avec les années ou est-ce qu'au contraire il y a un affaiblissement? Est-ce qu'il y a des données sur ça au fil du temps?
Ouais, alors ça fait pas plaisir aux gens, pareil là-dessus,
ça chute.
Politique comme sujet. Ça a chuté en France de 4 à 6 points au cours des 50 dernières années. On est à 98 aujourd'hui, on était à 104 il y a 50 ans, au niveau de la Corée du Sud aujourd'hui, quoi, ou de Singapour.
Bah écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, peut-être de l'intelligence dans une seconde partie, peut-être, ou oui.
Ouais.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Tu parles de l'intelligence et on avait eu aussi des chiffres sur la baisse de la VO2 max. Depuis 40 ans, c'est peut-être aussi l'occasion de parler des baisses des performances physiques et sportives de l'enfant et de l'adolescent. C'est peut-être une belle transition vers l'enfant, là.
Mais il y a un truc qu'il voulait dire, peut-être. Je sens qu'il y a un petit truc encore à dire sur la grossesse.
La grossesse, c'est un moment spécial. Hein, donc,
il y a des choses à dire par rapport à l'intelligence au QI, mais donc typiquement, les mamans qui mangent en excès du sucre génère une baisse de QI chez les enfants qui est bien mesurée scientifiquement par rapport à ça. Si vous voulez, je vous mettrai d'ailleurs une liste d'articles scientifiques pour que les gens puissent regarder.
Oui, bien sûr.
On mettra au-delà de 25, c'est 25 grammes, hein, la limite haute.
Pour les sédentaires complets. Dès que vous commencez à bouger, vous pouvez manger un peu plus.
Sachant qu'en fait, vous n'allez pas les avoir avec les fruits, on va pas se mentir. C'est en bouffant du chocolat. Je suis désolé, hein, faut se parler.
Ouais. L'excès de produits transformés a un impact aussi négatif sur la cognition de l'enfant. Pourquoi? Parce que à cause des produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens ou cancérigènes ou qui sont pro-oxydants, qui ensuite dégradent la construction de l'enfant pendant la grossesse. Autre chose qui est un sujet extrêmement glissant que j'ai abordé d'ailleurs dans le podcast avec Bioméca, c'est l'exposition aux phtalates et aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. On sait que ça a un effet sur la dissonance entre par exemple la perception du genre au niveau du cerveau, qui est régulée par différentes parties du cerveau, et l'organe sexuel. Donc ça a des conséquences très graves sur le développement de l'enfant plus tard. Donc c'est primordial, encore plus que pour tout le reste. Donc là, il faut vraiment être dans le turbofascisme, de l'éviction des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse.
Ok, ça, on a parlé dessus juste avant. Hein. Si vous avez avancé la vidéo, revenez un petit peu en arrière, on en a parlé.
Ouais. Donc voilà. Et ensuite, à l'inverse, ce qui va aider, il faut absolument être suivi par un diététicien nutritionniste pour être certain de ne pas avoir des carences, notamment en iode, en fer, en folate. Et il s'avère que manger plus de sources de choline et d'oméga 3 pendant la grossesse aide également au développement de l'enfant plus tard et à la cognition. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est asymétrique tout ça. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous pensiez qu'en mangeant plus d'oméga 3 ou de choline pendant la grossesse, que l'enfant sera plus intelligent. Ça veut dire qu'il va pouvoir se développer sur le plan cognitif au maximum de son potentiel. C'est ça que ça veut dire. Les gens ont tendance à faire cette erreur-là, et du coup, je vais être clair par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce sera le cas aussi pendant l'enfance. C'est pas parce que vous donnez de la créatine, des oméga 3 et de la choline à votre enfant qu'il va développer du QI en plus. Il va juste aller au maximum de son potentiel. Mais il s'avère que, malheureusement, dans notre monde moderne, la majorité des enfants, depuis la grossesse, n'ont pas accès à ce développement complet. C'est ça qui est triste.
Ils sont bridés. Ouais. Ils sont bridés, en fait. Ils sont à 80%. Ouais, bon, voilà. Je sais que c'est 1000% ici, mais on n'est pas dans l'eugénisme et on est plafonné à 100%.
Tu peux préciser le rôle de la choline ? Moi, c'est assez flou chez moi, la choline.
La choline, c'est juste Enfin, c'est juste simplement parce que les gens sont caressés là-dedans. C'est comme les folates, le fer, l'iode. Elle n'a pas un rôle particulier. Elle a un rôle important dans le développement cérébral. Mais seulement si elle est présente. Si elle n'est pas présente, forcément, ça va dégrader. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme quand tu construis une maison, bah, si tu manques du ciment, c'est compliqué.
Là, c'est vrai qu'on parle de choses un petit peu pointues, on rentre dans le détail, on parle de l'iode notamment, mais en termes de quantité, justement, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Le besoin énergétique, il est augmenté parce qu'on a un enfant. Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas être en déficit calorique aussi? Est-ce que c'est des choses, en fait, basiques aussi sur lesquelles il faut faire attention pendant cette période de la grossesse?
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, putain. Oh là
là. Ah bah c'est vrai que même les femmes, tu vois, je sais que peut-être il y en a certaines qui se disent « Oui, ben, je vais prendre du poids, ouais. Je vais faire attention, manger peut-être un peu moins. » Tu vois, ça peut être aussi des recommandations qui peuvent être importantes à entendre.
Ouais. Alors dans les recommandations japonaises du ministère de la Santé, ils font un truc que j'aime bien, c'est qu'ils interdisent aux femmes enceintes de prendre plus de 5 kilos, sinon ils les mettent au régime.
De 5 kilos pendant toute la grossesse ?
Pendant la grossesse, ouais. Bébé inclus.
5 kilos ?
Non mais un bébé, ça prend... Un bébé, il pèse entre 3 et 5 kilos sur l'extrême, ensuite t'as 2-3 litres de liquide amniotique, ensuite t'as 1 kilo de placenta... C'est pas ouais. Gérable ton histoire. Les calculs sont pas bons, Sherlock. Là, hein. Je suis désolé.
je sais que c'est choquant. En fait, après les Japonais sont un peu plus petits aussi, mais cette idée que on peut prendre 15 kilos ou 20 plaques pendant la grossesse, à moins de faire un diabète gestationnel, c'est signe qu'il y a une dérégulation de l'alimentation qui sera délétère pour l'enfant. Donc, il faut faire attention à son poids et ne pas se laisser aller. Si la personne commence à devenir grasse à cause d'un excès de consommation de sucre, ça peut pas aller. Après, si naturellement, c'est très compliqué de façon, pour une personne normale, en évitant les produits industriels, en mangeant normalement et de façon équilibrée, en mangeant suffisamment de fruits et légumes, de grossir. Donc, à partir du moment où une femme enceinte va suivre les mêmes recommandations en étant suivie par un diète ou une diète, elle peut pas dépasser les plus 10 plaques.
Ok, ouais, donc il faut qu'elle mange plus, alors toi, elle a besoin de plus d'apport énergétique ou pas forcément?
Pas vraiment, ça consomme quasiment rien le fœtus. Par contre, les apports en micronutriments sont plus importants, en iode, en fer, en folate,
tout ce qu'on a parlé,
etc. etc. Ouais.
Et c'est aussi un moment
de repos. Calcium aussi, ça déplète, hein, les...
Ouais, comment?
En calcium également, il me semble, hein. le fait de créer la trame osseuse.
De façon générale, les besoins en micronutritionnels sont augmentés, mais pas les besoins caloriques. C'est ça la difficulté.
Et c'est un moment spécial aussi, la femme a besoin de se reposer, non, pour faire son travail. Est-ce qu'elle doit plus dormir? Est-ce qu'elle doit avoir des temps de repos dans sa journée?
Alors là, oui, en théorie, mais comment dirais-je? Là, le problème de fond, il est que, en fait, elle doit suivre normalement ses instincts par rapport à ça. Alors, on va revenir à un autre problème qui vient après, mais c'est l'exposition aux écrans. Le manque de sommeil chez les femmes enceintes produit des problèmes, notamment métaboliques, chez l'enfant. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que la personne se considère pendant 9 mois dans un programme spécial d'ultra santé, ou alors chez les moines tibétains, mais qu'elle fasse encore plus attention à sa santé qu'à un autre moment de sa vie, en particulier à cause du fait que le bébé est théoriquement considéré, d'un point de vue biologique, comme un organisme étranger par le système immunitaire, et c'est la tolérance immunitaire de la maman qui permet en fait d'éviter à l'enfant de se faire manger par le système immunitaire. Et cette tolérance n'est possible que parce que l'orientation des systèmes immunitaires sont dirigés vers la pro-résolution de l'inflammation, donc l'inverse de l'inflammation, et ça n'est possible qu'avec un sommeil de qualité. Donc sommeil de qualité, ça veut dire sommeil profond de qualité et sommeil paradoxal de qualité. Et ça n'est possible que en ayant une alimentation correcte et un mode de vie pas trop stressant.
C'était complet. Et par rapport aux écrans, juste, je me permets de rebondir. C'est quoi? C'est vraiment l'écran ou c'est la lumière qu'il y a dans les écrans? Tu vois, je pense notamment à un rétroprojecteur. Est-ce que ça peut être un bon compromis?
En fait, c'est plusieurs choses. C'est à la fois, sur le plan comportemental, le fait d'être face à l'écran et d'avoir une anticipation par le cerveau du circuit dopaminergique, comme quoi on attend quelque chose, donc du coup, ça réveille. Donc ça, c'est comportemental. Et après, c'est la lumière bleue qui empêche derrière la production de mélatonine.
Okay.
Dans les recommandations du sommeil, ce que je recommande à mes athlètes ou à mes clients, c'est le soir, c'est de mettre un filtre à lumière bleue complet ou de porter des lunettes comme ça.
Fatal.
Ouais.
Garde-les.
Tu peux aller courir avec et tout là. Hein.
Ouais, c'est anti-sexe, mais on s'en fout, le gamin est déjà dans le ventre, ok?
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Allumer une lumière rouge, j'ai derrière là, par exemple, et éteindre une lumière blanche. Et ensuite, si vous avez des écrans, donc mettre un filtre sombre pour l'écran, anti-lumière bleue également, même si ça ne filtre pas tout. Et si vous regardez un truc aux écrans, ne pas mettre quelque chose qui est nouveau pour la cognition, pour le cerveau. Par exemple, en science, on parle de musique doudou, de film doudou. Des films que vous avez vus 40 fois, donc il n'y a aucune anticipation de quoi que ce soit. Le cerveau sait très bien ce qui va se passer dans le film, et donc il n'est pas excité par quoi que ce soit. Le système dopaminergique chute, ce qui permet derrière à l'endormissement de se faire plus rapidement.
On a reçu le professeur Philippe pour nous parler du sommeil, qui est le directeur de la médecine universitaire du sommeil au CHU de Bordeaux, et qui nous parlait que c'était pas tant l'exposition aux écrans, c'est sûr, il y a l'histoire de la lumière bleue, mais il y a aussi la stimulation et l'intensité de la stimulation. De regarder un combat de boxe à 2h du matin et regarder un film d'action le soir.
Ou un match de l'OM ce soir.
Un match de l'OM où tu palpites, c'est sûr que.
J'arrive jamais à dormir.
Il a regardé dans son lit déjà. Il a dit pour dormir ou faire crac-crac.
Ouais, exactement. Ça a été isolé, ça, hein, là, cette question de la stimulation intellectuelle versus la lumière bleue. Il s'avère que la lumière bleue seule, quand même, diminue la quantité de sommeil sur la nuit de 1 heure à peu près, entre 45 minutes et 1 heure. Donc c'est chiant. Et en plus, ce qui est encore plus chiant à mon avis, c'est que même quand on arrête, il faut 2 à 3 mois pour se sevrer de ça. Le cerveau a besoin de 2 à 3 mois pour se couper de cette habitude-là d'exposition à la lumière bleue le soir.
Bon, ben Vincent, il y a une dernière question. Vas-y, Pierre.
Le choix des lunettes, c'est 1000%, Vincent. Comment les choisir, les lunettes?
Du moins que.
Je prends les lunettes les moins chères possibles sur Amazon. Ça coûte 18 euros.
C'est exactement ce qu'on voulait entendre.
Les filtres anti-lumière bleue qu'on trouve chez les opticiens ne marchent pas.
Ah bon?
Qui coûtent 80 balles. Ouais, parce qu'en fait, ils filtrent quasiment rien. C'est pour ça, d'ailleurs, quand ça a été testé en laboratoire, les articles scientifiques qui parlent de ça montrent que, en fait, ça marche pas. Par contre, ces trucs-là marchent vraiment bien parce que c'est plus des filtres, c'est littéralement des.
Ouais, c'est des lunettes exprès. Hein. C'est vraiment conçu pour ça.
Tu vois que en rouge. Voilà. C'est des lunettes monochromatiques.
T'es dans le vrai. Vincent, je te propose maintenant d'accoucher. Hein. Ça y est, on est parti. On a fait ce qu'il fallait avant. On a fait ce qu'il fallait pendant. Et là, maintenant, le petit est là ou la petite. Tout s'est bien passé à l'accouchement. Est-ce que déjà, c'est vrai que des fois, on dit que les premières semaines sont importantes. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pendant cette période-là et voire peut-être un peu plus à long terme, jusqu'à 6 ans, je crois que vous nous avez dit en termes de temporalité?
En fait, concernant l'alimentation, c'est très compliqué. Et en plus, là, pour le coup, ce n'est pas ma spécialité. L'une des problématiques qu'ont les parents, c'est d'exposer les enfants à la variété au niveau de l'alimentation. Et là, ce qui va jouer principalement, c'est l'exemple. Donc, si un enfant voit des parents manger des chips, boire de l'alcool, il a envie de faire pareil. Si l'enfant voit en permanence ses parents manger des fruits et des légumes, manger sain, le temps à table est très important. L'enfant, c'est aussi un... C'est, comment dire, ce n'est pas que une bouche et une paire de fesses, tu vois. C'est pas juste un tube. Il perçoit les émotions. Si un enfant qui est mis à table... Déjà, si l'enfant n'est pas mis à table, s'il n'y a pas de table qui n'existe, c'est-à-dire que les parents ne mangent pas ensemble, ils sont toujours occupés à droite, à gauche, il ne va pas du tout avoir la même perception de l'alimentation que quelqu'un de, on va dire, un adulte normal. Et ensuite, il peut se créer, c'est quelque chose de probable, mais n'est pas certain, mais il peut se créer des troubles alimentaires par rapport à ça. Le rapport émotionnel à l'alimentation est très important, et donc avoir un moment de calme et de sérénité au moment du repas est aussi important que le fait de montrer par l'exemple à l'enfant qu'il faut manger en mangeant naturellement lentement des fruits et légumes, un peu de tout, des produits sains, et qu'on y prenne du plaisir également. Parce que si tu vois la papa et la maman, ils se disent ouais, putain, il faut qu'on mange ça pour dans l'enfant, et donc ils achètent que des brocolis, des trucs qu'ils détestent, enfin, détestent ça, l'enfant il va le voir, ça c'est des éponges émotionnelles.
Et est-ce qu'on, on avait eu ce débat avec Blaise, est-ce qu'on force un petit peu les enfants à goûter, tu vois, et des fois on sait que même à l'école, hein, il y a ce truc de ah les épinards c'est pas bon, ils font aussi comme les copains ce qu'ils entendent. Est-ce que moi je sais que j'ai été éduqué il faut finir ton plat, ton assiette, tu manges tout sinon tu restes à table. J'ai eu des quarts d'heure, des 20 minutes, voire une demi-heure à table. C'est quoi, qu'est-ce qu'on fait?
Ça dépasse ma compétence. Je comprends certains aspects, mais là-dessus, ça.
Je
peux pas.
Non, mais c'est qu'il y a quand même ce mode en ce moment où on dit voilà, il faut laisser l'enfant faire, il faut laisser l'enfant s'exprimer. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas, nous, je sais pas comment on faisait Vincent et Pierre, alors eux, de leur côté, mais je pense que notre génération, on avait quand même beaucoup moins ça par rapport aux générations actuelles. Donc voilà, faites ce que vous voulez par rapport à ça, on va recentrer le sujet, Pierre.
C'est la DME, c'est la diversification menée par l'enfant, et c'est une des techniques, c'est à l'enfant d'explorer, que ce soit par le toucher, le goût, et c'est à lui d'explorer et de s'y exposer. Je pense que la confrontation, c'est jamais la meilleure des choses à faire. La meilleure chose pour braquer l'enfant et pour que la prochaine fois que tu lui proposes le même truc, qu'en fait, je pense qu'il faut présenter encore et même ce que disait Vincent, c'est que l'enfant voit que tu manges le truc qu'il veut pas manger et que toi, il n'y a pas de problème avec et tu lui dis que c'est bon. Une fois, deux fois, trois fois, il va comprendre que... Bah, par contre, si tu lui proposes le truc dégueu, que toi, tu manges autre chose à côté, que tu manges burger et pendant que lui, il bouffe ses épinards, c'est sûr qu'il ne comprend pas.
Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, donc là, ça, c'était le premier point.
Alors ensuite, au niveau du développement de l'enfant, entre 0 et, on va dire, 6-10 ans, c'est une phase où l'enfant devient fort seulement parce que son système neuro se renforce, mais pas tellement parce que son système hormonal s'adapte, puisqu'il n'est pas encore... hormonalement, il est encore, on va dire... juvénile. Et donc, la conséquence de ça, c'est que au niveau des entraînements, au niveau de l'activité physique, il doit chercher la variété, la qualité technique et la répétition plutôt que l'intensité maximale. C'est quelque chose qui est bien montré, ça, par les éducateurs, les papiers et qui a été bien expérimenté sur le terrain par les éducateurs sportifs.
C'est du développement moteur. Développement moteur sans chercher à vraiment. Mettre de l'intensité dans la musculation. Même des fois je vois des vidéos, tu vois, d'Américains là, ils font faire des squats, ils chargent un peu non, c'est pas bien.
Après faut voir, quand tu vois le fils d'Eddie Hall qui fait un deadlift à 200 kilos à 11 ans,
ça va pas,
ça pour moi c'est absurde. Après c'est toute la limite, tu vois, entre les adaptations spécifiques, le changement hormonal, jusqu'où on peut pousser un enfant pour qu'il devienne athlète de haut niveau. En plus, il y a des vertus aussi à aller chercher la difficulté dans sa propre quête de construction, notamment par le sport et la compétition. Mais il faut juste faire quand même attention. Par rapport à la musculation, pour revenir à ce sujet-là, ce qui est certain, c'est que la musculation ne crée aucun retard chez l'enfant, est bénéfique pour la densité minérale osseuse, est bénéfique pour son développement moteur. Alors pas que la muscu, mais disons n'importe quelle activité. Et donc il faut pas avoir peur d'exposer les enfants à la difficulté, à la charge, mais il faut pas lui faire faire un cycle de force de power builder adulte, parce qu'il n'est pas hormonalement conçu pour ça. Parce qu'encore une fois, il se renforce sur l'aspect neuro. Donc les gains de force qu'ils vont avoir vont être seulement neuro, et donc il faut prendre ça en compte. Ça va pas être structurel. Les gamins à 11 ans qui ont des abdos saillants aux États-Unis, on a un cas comme ça à Montauban, d'ailleurs, qui est très problématique, d'une très jeune altéro enfant qui fait des barres de niveau international. Et ça se voit qu'elle est chargée, d'ailleurs, parce qu'elle a la mâchoire qui est ultra carrée et elle a des dysmorphismes. C'est très, très grave, ça.
Elle est chargée à son âge ?
Alors, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Il n'y a pas de preuve de ça. Mais il y a un vrai problème, et à chaque fois qu'il y a une compétition où il y a des contrôles, elle n'est pas là.
Ouais, c'est terrible.
Et tu dis le système hormonal et nerveux est en train de s'adapter, de se maturer. Donc en fait, c'est tout le système de communication du corps qui n'est pas encore mature à cet âge-là.
Ouais, on est tout. Et les systèmes de filtration également, donc les reins, le foie, ils fonctionnent à 100% seulement à partir de 10-12 ans. Et là, j'en viens à un autre problème, c'est que l'exposition aux toxines, aux perturbateurs endocriniens à cet âge-là est dramatique, parce qu'il met des années à en récupérer, là où un adulte met quelques semaines.
Et justement, les écrans, excuse-moi, mais on en parle aussi. D'ailleurs, là, tu as une recommandation vis-à-vis de ça. On sait qu'en ce moment, c'est beaucoup critiqué aussi, à juste titre, j'imagine. Est-ce qu'il y a un âge pour toi où on peut tolérer un petit peu d'écran pour les enfants ?
Alors, juste à venir aux écrans, parce que j'ai des chiffres pour finir par rapport à l'aspect entraînement. On sait que, ouais, c'est ça, c'est le, ouais. 80% des ados qui ont entre 11 et 17 ans dans le monde, donc 80% c'est beaucoup, hein, ne bougent pas assez, c'est-à-dire ne respectent pas les recommandations d'activité physique de l'OMS, à savoir bouger au minimum 60 minutes par jour. On pourrait se dire, ok, c'est dans le monde. Mais en France, pour les 6-10 ans, c'est 37% qui n'atteignent pas ces recommandations d'activité, et pour les 11-17, c'est 75%.
C'est l'arrivée de la play dans le salon, ça.
Moi, non, parce que la play, moi, à l'époque. Hein.
C'est ça, à notre époque, on l'avait, mais on bougeait plus. Hein.
Et sur la VO2 Max, tu sais, j'avais commencé à l'évoquer, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne m'a pas donné suite.
ça va, Pierre. Mais avec quoi ?
Comment ça ?
Il est persécuté. Non, ce que je disais, tu sais, on avait vu une étude sur la baisse de la VO2 Max depuis 40 ans. Et ouais. Je crois que c'était c'est pas Stéphane Diagana qui parle de ça.
Si, peut-être. Ouais, je crois qu'ils ont fait un podcast sur ce sujet. Oui,
ouais, et que depuis 40 ans, il y avait une baisse entre 20 et 40% de la VO2 max chez les adolescents. Est-ce que t'as des stats un peu là-dessus pour que les gens puissent se rendre compte de.
Alors, le problème, c'est que si t'as l'inactivité physique qui augmente avec les stats que je viens de donner, le fait que 50% des calories mangées par les enfants vient de produits ultra transformés, il y a une perte de l'éducation physique. Forcément, derrière, ça va amener à une perte de la VO2 max. Et en plus, d'un point de vue générationnel, si on a des parents qui sont pas forcément très bons de génération en génération, ça va empirer, ça fait un effet boule de neige. Donc pour moi, c'est ça, l'explication est toute simple.
Il y a plus de facteurs positifs pour une amélioration des conditions physiques des adolescents, en fait. Le contexte se détériore.
J'ai pas abordé le pire encore, hein, mais ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Et juste, moi, je reste sur la VO2 max. Est-ce que on sait que voilà, on a génétiquement un plafond, on va dire. Est-ce que ce plafond, il est justement, est-ce qu'on peut, on a plus de chances de progresser si on s'y met jeune et qu'on fait de l'activité physique en étant jeune, et que si on commence par exemple à 20 ans, ben ce plafond, en fait, on va jamais réussir à l'atteindre et ça sera même pas le même plafond. Est-ce que ça, c'est réel?
Oui, il y a des, ouais, c'est, ça s'appelle courir après sa santé, ça. En fait, on sait que les enfants qui ont un excellent développement de physique à partir de l'âge de 6-7 ans, ils ont des qualités physiques supérieures de 10-15% à l'âge adulte, et ça se retranscrit très bien dans le sport de haut niveau. On voit des différences majeures entre des enfants qui ont commencé très très jeunes et des enfants qui ont commencé plus tard. Alors pour le haut niveau, il y a une petite nuance à comprendre aussi, c'est que comme ils démarrent très jeunes leur carrière, ils la finissent plus tôt en général. Mais par contre, pour la santé, c'est clairement un gain net pour toute la vie.
Et c'est peut-être là que je fais ma petite parenthèse. J'ai réécouté avec plaisir l'épisode de Marco Gabuti qui interviewait Jean-Philippe Deneville, qui a fait sa thèse sur la biomécanique du disque. C'est vraiment un épisode passionnant si vous avez l'occasion d'écouter. Et il parlait notamment de comment se comportait le disque. Donc il est composé de deux éléments, hein, un noyau. Et puis après un anneau fibreux qui est autour, et donc c'est deux structures complètement différentes qui vont répondre différemment aux contraintes. Un noyau qui répond plutôt aux contraintes de compression, et le contour plutôt fibreux qui répond plutôt à des contraintes de traction. Et on va avoir ce noyau qui va avoir des capacités métaboliques qui vont être différentes entre l'enfant et adolescent versus à l'âge adulte. Il va se modifier. Et ce que sous-entendait Jean-Philippe Deneville, c'est que, qui est kiné aussi, et c'est que les capacités métaboliques du disque étaient très, très importantes pour s'adapter à l'âge d'adolescent, et qu'il allait perdre une partie de ses capacités d'adaptation, qui étaient quand même supérieures. Donc, à partir de ces 14, 15 ans, et que ça allait drastiquement s'arrêter ou se calmer à partir de 20 ans. Et donc, on allait se retrouver avec quand même des enfants ou des adolescents qui allaient pouvoir se créer ce capital, dans ce cas-là, discal, pendant ces années qui sont du coup très importantes. Donc, on va voir aussi une différence entre des enfants qui sont exposés à des contraintes pendant leur adolescence en impaction, puisque on a vu un disque qui répondait à des contraintes d'impaction, c'est de la mécanotransduction, c'est-à-dire qu'une cellule va répondre à des contraintes mécaniques par des adaptations physiologiques, et vous allez avoir ces contraintes d'impaction qui vont jouer ce rôle spécifique pour certains types de cellules, et des contraintes en traction sur une autre partie du disque qui vont jouer ce rôle-là. On retrouve ça, par exemple, sur un tendon qui va s'adapter. On retrouve ça sur un muscle, bien sûr. Mais on peut se poser la question chez des athlètes, par exemple, qui font de la natation 20 heures par semaine, zéro contrainte en impaction et en charge. On n'a que plutôt des contraintes en tension, traction, mais ce ne sont pas des individus qui sont en charge. Et on aurait quand même une augmentation du risque de fracture de fatigue à l'âge adulte s'ils se mettent à des sports chargés.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Juste on les stimule, on leur laisse du jeu, on diversifie l'activité.
Il faut diversifier, il faut explorer.
Ouais. Maximiser les coordinations motrices. Parce que oui, alors pour retomber sur le sujet de l'intelligence, on peut avoir, on va dire, toutes nos statistiques qui définissent l'intelligence générale qui soit basse, mais on sait que ce qui est très beau d'ailleurs avec les enfants, c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que l'éducation au sens large est importante. L'exposition à la nouveauté et l'apprentissage permet de refaire monter ces choses-là. Donc du coup, plus tu vas augmenter ta coordination motrice, plus tu vas augmenter ton intelligence motrice, ce qui va faire ensuite mécaniquement augmenter toutes les autres, potentiellement. C'est pour ça que si on veut un enfant qui réussisse dans la vie, il faut qu'il soit très sportif quand il est jeune. Au sens général du terme, pas qu'il gagne, on s'en fout ça, mais qu'il soit un athlète, qu'il essaie d'être complet au niveau des coordinations.
Et tu verrais des sports différents, tu sais, coordination par exemple œil, main, pied, par exemple on pourrait parler des sports de raquettes, ou des sports de combat, par exemple du judo, jujitsu, où là c'est coordination du corps, aussi du corps dans l'espace, tu sais.
Je crois que c'est en Suisse, au Canada, ils ont un développement moteur, peu importe que tu fasses du baby tennis ou du basket, en fait, ils les apprennent à sauter, à courir, à jeter. C'est un apprentissage de différentes capacités.
Ouais. Pour moi, le cirque, tu vois, c'est super, la gym, les arts martiaux, savoir courir, savoir soulever des charges. En fait, il faut savoir un peu tout faire, donc et savoir tout faire, mais sans contrainte. Comment dirais-je?
Forcer l'enfant.
Tu vois, là, c'est un sujet, à mon avis, alors j'ai un avis très personnel, mais je considère que, par exemple, le crossfit est pas mal, mais c'est pas non plus idéal, parce que c'est trop quand même cloisonné au crossfit. Il faut vraiment qu'il puisse explorer librement.
Oui, tu cherches de la 3D. Sur la coordination, c'est plutôt déficitaire sur le crossfit. On va être sur des mouvements d'haltérophilie, mais de jouer au ping-pong, c'est pas transférable entre le crossfit et...
Voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, c'est plus important de vraiment varier et de toucher un petit peu à tout, aussi en fonction du désir de l'enfant.
Mais le foot, hein, le tennis, ouais. Je pense que c'est pas mal.
Et bien sûr, le foot.
J'ai regardé un interview et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'effet du foot sur justement la vision d'avoir un jeu à 360 degrés où tous les adversaires peuvent venir devant, derrière. On le retrouve très rarement, de devoir se retourner et prendre l'information. Le placement que ça met dans le corps et les informations qu'on a au quotidien. C'est que moi, quand je traverse la rue, je vois plein d'infos que je pense les gens qui n'ont jamais fait du foot ou des sports avec une vision globale. En fait, je pense qu'on ne voit pas du tout la même chose au quotidien et je pense que c'est important d'intégrer ça, cette vision aussi de l'effort physique avec une vision globale et à 360 degrés et pas dans des sports où on est très focus sur quelque chose de devant nous. Je pense d'avoir ce recul et cette vision, c'est aussi quelque chose qu'on parle très peu et qui est bénéfique.
Oui, absolument.
Ouais, je pense que c'est j'avais l'entraîneur qui me disait ça aussi, quand tu es en voiture, essaye de regarder un point, mais en même temps d'élargir ta vision au maximum pour comme si tu étais sur un terrain de foot. Et c'est vrai que ça m'avait assez marqué par rapport à ça. Voilà, désolé, je complétais par rapport à ça. Est-ce que vous avez une question, Pierrot ou Vincent, sur l'activité physique ou pas particulièrement? Parce que moi, je veux juste qu'on revienne sur la question de la musculation chez l'enfant. Tu as dit de faire attention. Et à partir, est-ce qu'il y a un âge où justement on peut y aller, on peut forcer?
Mais musculation, c'est prise de masse musculaire. Et je pense qu'on a fait exprès de choisir ce terme-là. C'est développement des capacités motrices qu'on cherche.
Ouais. La musculation, c'est aussi soulever de la charge lourde.
Bénéfique.
Oui, c'est bénéfique, c'est clairement bénéfique. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Parce qu'un enfant qui fait que ça, après, il a zéro coordination.
Ouais. Mais tu vois, si ton enfant, tu fais ta séance de renfo, il a 4-5 ans, il veut s'amuser un petit peu avec une haltère, la porter, faire comme toi, des squats. Est-ce que tu as une contre-indication par rapport à ça?
Non, aucune. En fait, alors, les recommandations classiques, nous, la recherche scientifique, c'est en gros donc 60 minutes d'activité par jour. Et pour des entraînements dits de plus haute intensité, donc par exemple, s'il a envie de faire la muscu ou de l'haltéro ou je sais pas quoi, c'est 3 fois max par semaine pour laisser le temps au corps de récupérer.
Ok, de rester à l'écoute du corps.
Je pense que les gens ne se rendent pas compte du temps d'adaptation des structures. Là, par exemple, on parle d'haltéro. Bon, je pense qu'on parle de profils très particuliers, des enfants qui font de l'haltérophilie. Ça court pas les rues, ou qui font du crossfit. Je pense que le bon sens, c'est quand même de travailler la technique, de travailler le placement avec des charges légères, de déjà travailler en poids du corps. Ça paraît quand même la base. Mais je pense, même si on regarde un peu plus sur les sujets qui sont un peu plus âgés, chez les adultes, le temps d'adaptation des structures, que ce soit c'est lié à la vascularisation, le temps d'adaptation entre un muscle, un tendon, un système articulaire et un système discal, c'est pas du tout le même temps d'adaptation. Et je pense que chez un enfant, de vouloir aller trop vite et de vouloir progresser trop dans les charges, il va vite progresser au niveau nerveux, mais ouais. Pas, les autres structures ne vont pas suivre. Hein.
C'est pour ça que les recommandations, c'est d'être à fond sur la technique et pas tant sur la force. Après, vous avez des gamines en Chine qui font des arrachés à 134 des blocs à 11 ans. Mais bon.
Et qu'est-ce qu'on en pense de ça, justement? C'est vrai que nous, on est une génération, typiquement, où on ne faisait pas de renforcement. Enfin, moi, je sais que de mes 6 ans jusqu'à mes 12, 13, 14 ans, j'ai jamais porté un poids. Et au contraire, on me disait, déjà, moi, j'ai pas beaucoup grandi. On me disait, non, c'est pas bon, la croissance, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans les croyances collectives.
Alors, pour la Chine, le système sportif de santé et de prévention pour les jeunes enfants est excellent. Il est bien meilleur que tout ce qu'on voit en Europe. C'est-à-dire que les enfants font du sport quasiment tous les jours, de façon intensive, orchestrée. C'est vraiment très très bien. C'est presque dictatorial comme activité, mais c'est très bien. Par contre, au niveau de la, au niveau du haut, à propos du haut niveau, donc pour ce qui est de la sélection, etc. En fait, seuls les meilleurs survivent. C'est-à-dire qu'ils ont 30 000 gosses. Et à la fin, tu te retrouves avec peut-être 500 gosses qui sont en sélection et les autres sont cassés.
Ouais, c'est sûr. Après, là, on parle vraiment de cas extrêmes. Vincent ?
Et sur le, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surentraînement à cet âge-là ? Tu sais, ils sont peut-être pas assez matures sur leur ressenti, oui. Système d'alerte.
Oui, c'est pour ça que, en gros, les recommandations, c'est pas dépasser 3 séances par semaine de haute intensité et le reste, c'est que du jeu pour tamponner.
Et on a fait un podcast avec Blaise Dubois où on a parlé justement de la course à pied chez l'enfant qu'on vous recommande de regarder, quand commencer, quand débuter. Et je pense que ça vous intéressera justement, donc on vous mettra ça aussi en description.
On a reçu du coup professeur Philippe sur le sommeil, donc la fatigue c'était exceptionnel entre somnolence, fatigue et dépression. Et en fait on a parlé un moment des enfants et il disait en fait notre système scolaire est pas adapté. Ces enfants à cet âge-là ont des besoins de sommeil qui sont différents de l'adolescent, de celui de l'adulte. Et donc, il y a sûrement quelque chose à repenser.
Il mériterait de dormir une heure de plus.
Oui, voilà.
Ouais. Carrément, ouais. Ça, pour le coup, j'ai pas de solution par rapport à ça. Il faudrait les laisser dormir plus, il faudrait qu'ils bougent plus. En fait, le système éducatif devrait leur permettre de dormir 10 heures par nuit et d'avoir au moins toute l'après-midi pour jouer et faire des coordinations motrices.
Mais de façon globale, est-ce qu'on sous-estime pas les capacités de l'enfant, justement? Tu vois, enfin, on en parlait. Je racontais toujours cet exemple où je vois encore des enfants en poussette, des enfants qu'on porte pour monter 50 escaliers, d'autres aussi. Au niveau développement intellectuel, ou à cet âge-là, on sait que c'est des éponges. Et en fait, on va plutôt des fois mettre des dessins animés complètement débiles. Et tu vois, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train petit à petit de les fragiliser, entre guillemets? Je me fais un peu l'avocat du diable, là, désolé, mais c'est aussi le rôle du podcast.
Non, par exemple, le choix des dessins animés, il faut que ce soit un choix fait conscient par les parents, parce que sinon, s'ils regardent n'importe quoi à la télé, ils vont être surexposés à des trucs à 60 images par seconde, et ça détruit le cerveau de l'enfant, c'est bien, bien mesuré scientifiquement. Ça leur détruit leur circuit de la dopamine, et ils sont plus capables d'avoir des raisonnements longs. D'ailleurs, et ça diminue leur taux d'attention à l'espace de 30 secondes, minutes, alors que les enfants du même âge, il y a 60 ans, avaient une capacité d'attention qui était entre 15 et 30 minutes.
C'est monstrueux.
Ouais,
on leur fait regarder nos dessins animés.
C'est une destruction, en fait.
Mais en fait, ça peut paraître caricatural, et ça c'est important que d'ailleurs de l'entendre, c'est que vous prenez quelqu'un qui a 70 ans, la manière dont il s'exprime, c'est pas parce qu'il est vieux, il s'exprimait aussi comme ça quand il était enfant, au niveau du temps, de réflexion, et des choix. Et la manière dont on s'exprime, en fait, c'est quelque chose qui évolue très peu au cours de la vie, alors sauf quand on devient complètement sénile à 95 ans. Mon point, c'est que, pour que vous vous rendiez compte, imaginez un enfant qui s'exprime comme une personne de 70 ans en termes de temps de réflexion pour la construction des phrases. C'est pas qu'il est lent intellectuellement, c'est qu'il met du temps à construire ses phrases pour trouver les bons mots. Et aujourd'hui, les enfants sont pas du tout construits comme ça, et c'est un problème pour le développement cognitif en partie, et leur structure interne et leur perception du bonheur. Et alors là, j'en viens à un problème crucial, parce que bon, admettons qu'on ait tout fait correctement, d'accord? Donc avant la grossesse, pendant la grossesse, le petit enfant et tout. Bon, il y a une période charnière qui est l'adolescence, avec le changement hormonal. Donc là, il faut comprendre une trinité particulière, qui est la trinité des neurotransmetteurs noradrénaline, dopamine et sérotonine, qui sont les trois responsables de l'humeur et de la perception du bonheur. Ça c'est quelque chose dont je parle d'ailleurs dans mon livre, qui va enfin sortir le mois prochain.
Fais-nous la pub, là. C'est quoi le nom du livre, Vincent?
Ça s'appelle Mitochondrie et fructose, la guerre invisible.
Ça
parle en partie de ce que je vous ai raconté ici, mais de façon, pour certains points, beaucoup plus détaillée, évidemment, parce que c'est un bouquin. Bref.
Ça sort quand? Donc,
il est déjà écrit, mais il sortira sur mon site internet dans un mois.
D'accord.
Il faut avoir un temps d'attention un peu plus long que 30 secondes, du coup.
Alors, moi, j'écris des livres pour hausser le niveau. Donc, j'écris pas du majeur mouvement, donc les gens, ils vont avoir du mal.
Oh là là.
Je nivelle par le haut, donc voilà, je suis formateur.
Tu vois, c'est au moment où
on formateur va... aussi, mais bon.
Vincent, il nous a dit qu'il avait jusqu'à 17h. C'est à partir de maintenant qu'on a besoin de toi. C'est quand tu commences à te lâcher.
C'est fini.
Mais là, j'ai vu l'intelligence, je te le dis de suite. T'adores l'intelligence, on va se faire une capsule intelligence bientôt, là.
Du coup, tu nous as pas dit ce que tu voulais.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que. La dopamine, si on prend ça comme un trio musical, c'est le violon, c'est les envolées lyriques, c'est le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir, d'accord? Et c'est la récompense. La noradrénaline, c'est le tambour, c'est ce qui donne du sens à l'expérience, d'accord? Donc c'est la vitalité, c'est les émotions, c'est également l'engagement. Et la sérotonine, c'est le piano de fond qui permet d'harmoniser le trio musical. Le bonheur sans sérotonine n'est pas possible, mais si on a que la sérotonine, il est un peu fade. Hein. C'est la stabilité émotionnelle, c'est le calme, la paix intérieure. Bon. À l'adolescence, donc on a ce trio de neurotransmetteurs qui se développe de manière plus ou moins équilibrée au cours de l'âge. Si on a un enfant qui a une orientation à peu près normale et qui des coordinations motrices qui sont développées normalement, ok, tout se passe bien. Mais à l'adolescence, il y a, à cause de changements hormonaux, une restructuration neuro-endocrine du cerveau qui ouvre une énorme fragilité, une possible fragilisation de cette triptyque neuro-endocrinienne. On sait, scientifiquement, c'est bien établi que l'exposition à des choses donc aux écrans, style, enfin pas aux réseaux sociaux, style TikTok, des choses qui amènent des informations très rapidement, le porno, l'alcool, les addictions, l'excès de sucre, la cigarette, en gros tout ce à quoi sont exposés les adolescents, ont tendance à moduler, reconfigurer cette triptyque principalement en direction de la circuiterie dopaminergique, ce qui transforme les adolescents en des boulimiques consommateurs de dopamine. Et donc finalement en très bons consommateurs à l'âge adulte, ce qui arrange les gens qui vendent des produits. Mais le problème de ça, c'est que ça crée un désordre profond. Par exemple, donc la dopamine en excès, ça amène à des problèmes d'addiction, de dépendance et d'épuisement. D'accord ? La noradrénaline, typiquement en excès, ça amène à de l'anxiété, à de l'irritabilité et à des burn-out. Si on prend des caricatures, quelqu'un qui est trop axé noradrénaline, c'est le casse-cou. C'est celui qui adore les sensations fortes. Celui qui est trop axé dopamine, c'est l'addict. Celui qui est trop axé sérotonine, il va être plus dans l'apathie, dans l'indifférence, dans l'inhibition sociale. Donc c'est la personne un peu isolée, un peu le moine zen ou un peu mollasson. D'accord ? À cause de tout ce que j'ai expliqué, des écrans et tout ça, on a tendance à orienter les gens vers un excès de dopamine. Et si vous voulez, c'est un peu comme une mer qui était stable, et tout d'un coup, il y a des vagues de partout, et donc le système, il se réorganise comme il peut, et à la fin, à l'âge adulte, on se retrouve avec des gens qui sont principalement désaxés sur la dopamine, mais aussi des gens qui se retrouvent désaxés sur la noradrénaline ou la sérotonine, parce qu'à la base, il y a eu une impulsion dopaminergique trop forte.
On peut se sevrer justement de cette dopamine, on peut essayer de lutter contre ça Est-ce qu'on peut avoir un effet, nous, justement ? Est-ce qu'on peut
J'apporte toutes les solutions dans le livre, mais de façon simple, un vecteur majeur de solution, c'est 1. Le sport. Si c'est votre noradrénaline, donc le côté casse-cou qui est excessif, c'est plutôt la basse intensité. Si c'est la sérotonine, c'est plutôt la haute intensité. Si vous êtes tout le temps apathique, il faut vous bouger le cul et aller faire la haute intensité. Voilà. Si vous êtes tout le temps excité, zone 2, tranquille. Si c'est la dopamine qui est le problème, là, c'est un peu chiant, parce que le sport va aider à la reconstruction, mais c'est aussi la construction de projets et l'anticipation du plaisir et le plaisir retardé qui va surtout corriger le problème. Et c'est très désagréable, ça.
Et pourquoi c'est désagréable ?
Parce que, imagine quelqu'un qui est en permanence habitué à être récompensé à la moindre action 5 secondes plus tard.
Il va avoir du mal à se projeter.
C'est ouais, l'insatisfait, en fait. C'est l'insatisfait ouais, que tu demandes à se satisfaire.
C'est la satisfaction qui est bénéfique ici. Mais à l'âge adulte, comme on est adulte et qu'on est grand et responsable, on n'a plus des parents pour nous obliger à faire ça. Et c'est très compliqué de se sevrer soi-même volontairement dans une direction pendant plusieurs mois, parce qu'il faut plusieurs mois au système dopaminergique pour se réguler. Voilà.
Et se sevrer, ça veut dire quoi ? Plus de réseaux sociaux, plus de stimulation rapide ?
C'est du cas par cas. Mmh. Par exemple, les gens qui adorent regarder les réels avant de dormir et qui ont du mal à dormir, en général, donc ils vont essayer d'arrêter ça. Et puis en fait, ils vont commencer par exemple à regarder des vidéos sur YouTube, des streamings. Et puis au bout d'un moment, ils arrêtent ça, donc ils vont commencer à manger plus de sucre. Ils vont arrêter de manger du sucre, ils vont commencer à boire plus d'alcool. Ils vont arrêter l'alcool, ils vont essayer autre chose. En général, c'est des effets rebonds comme ça. C'est très très compliqué à arrêter. Et c'est très insidieux.
C'est de l'addictologie finalement. Hein. C'est ça la problématique. C'est comme d'arrêter la cigarette ou d'arrêter l'alcool et autres et le sucre.
Vous avez fait un podcast avec un addictologue ou pas?
Ben non.
Ce serait vachement intéressant, ça.
On n'a pas trouvé. Enfin, on a cherché un petit peu sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on en a contacté quelques-uns, on n'a pas eu de retour. Peut-être que on lance une bouteille à la mer, c'est un commentaire. Donc, si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous proposer.
C'est l'adolescence qui met ce pic de dopamine, là, tu dis, hein, par les comportements qui sont négatifs, qui fait que ça crée un déséquilibre hormonal.
Ouais. En fait, c'est un problème sociétal. C'est-à-dire que c'est notre société qui est conçue pour transformer les adolescents en ultra-consommateurs et qui change leur équilibre neuro-endocrine. Parce qu'ils sont, l'adolescence, c'est une période d'explosion hormonale où ils sont censés tout explorer à plus haute intensité, mais de façon équilibrée.
Et viser le sport, mais peut-être que la balade en forêt, ça fait du bien aussi, non?
Ouais, alors la connexion à la nature, si c'est aussi quelque chose de très important, notamment pour les gens qui ont des problèmes de sérotonine, par exemple. Et alors, bon, je prends un exemple caricatural, d'accord, hein, je suis pas un nazi fou.
Allez, allez.
Lycurgue, qui est un Sparte qui était responsable de la formation des Spartiates à l'époque, le film 300, ces trucs-là. Il considérait que les adolescents, comme ils avaient plus d'énergie que les autres, il fallait être encore plus rigide envers eux, les leur faire encore plus de trucs, donc encore plus d'activités, leur apprendre encore plus de choses, être encore plus rigoureux avec eux. Et c'est comme ça qu'on en fait des adultes forts et brillants. Et je pense que dans l'essence, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que les adolescents, puisqu'ils sont dans une explosion hormonale et qu'ils peuvent faire plus que les autres, si on a les moyens de les orienter pour leur permettre de faire plus dans toutes les directions, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan sportif, etc., etc., sur le plan émotionnel, alors on en fera des adultes vraiment à 1000%.
C'est l'intensité, là. C'est l'âge de l'intensité.
Et le volume, ouais.
Et qu'est-ce qu'on... On n'en a pas parlé, mais... Qu'est-ce qu'on pense justement de cette nouvelle génération maintenant avec l'avènement de ChatGPT qui révolutionne un petit peu aussi la façon de faire ses devoirs à la maison, peut-être le système éducatif sur du long terme. Est-ce qu'on le supprime justement de nos enfants? On interdit d'avoir cette application sur le téléphone où ça va être dur de lutter justement, mais est-ce que tu vois un appauvrissement justement aussi intellectuel des enfants
non,
à cause de ça?
C'est une opportunité, quoi.
Ouais, enfin, en fait, ça change pas grand chose. ChatGPT, ça ne fait qu'accentuer les différences. ChatGPT, pour que ce soit un outil qui soit fonctionnel, il faut s'adresser à lui correctement. Pour s'adresser correctement à lui, il faut être intelligent et utiliser les bons mots-clés, donc avoir du vocabulaire. Avoir une maîtrise correcte du français. Ça ne fait qu'accentuer les différences entre ceux qui ont déjà un QI important et qui sont éduqués, instruits, et ceux qui ne le sont pas. ChatGPT ne fait que s'adapter à la personne sur le plan sémantique, c'est juste un algorithme. Donc,
Je me permets justement de poser cette question parce que je suis tombé sur un podcast d'un professeur qui disait qu'il se rend compte que 80% des dissertations des élèves qui sont faites à la maison, c'est que du ChatGPT. Enfin, il dit que les élèves ne font plus leurs devoirs à la maison. Et même en mathématiques, c'est pareil. Maintenant, il y a justement des intelligences artificielles qui sont spécialisées sur les maths. Et il dit on a un vrai problème, c'est que les enfants ne font plus rien à la maison. Et il dit, et c'est factuel, hein, il était là justement pour alerter sur le sujet et dire aux parents, il faut absolument que vous soyez derrière vos enfants et de ne pas utiliser ça et vraiment le supprimer parce que c'est un drame. Ouais, quoi. Ouais.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, mais ça c'est personnel, hein, je donne mon opinion, c'est qu'en fait ça ne montre qu'une chose, c'est que les enfants ne font leurs devoirs pas parce qu'ils ont un désir d'apprendre, mais parce qu'ils ont peur d'avoir une mauvaise note. Donc, à partir du moment, moi je vois ça avec mes étudiants, certains n'ont rien à foutre d'être là, donc du coup ils accélèrent la chose avec le ChatGPT, ils apprendront jamais rien de leur vie, et par rapport à en tout cas le diplôme que je prépare, enfin pardon, qu'ils préparent, et donc du coup ils seront pas bons, mais ceux qui sont désireux d'apprendre, ils vont pas se couper d'un processus qui est enrichissant et qui leur procure du plaisir. Si tu as des enfants qui prennent du plaisir à faire des équations, à écrire des choses, ils ont aucune raison de laisser un ordinateur faire le boulot à leur place. Donc le problème de fond, c'est pas qu'on ait un nouvel outil pour que les étudiants ou les enfants l'utilisent, c'est que notre système d'éducation récompense de façon inadaptée les enfants.
Ok, je l'entends bien sûr.
100% d'accord avec ton point de vue, je l'aurais pas exprimé aussi bien que toi, mais je pense qu'effectivement peut-être de noter les devoirs à la maison, ça n'a même plus aucun sens. L'idée c'est de de garder peut-être ce temps à l'école pour que les évaluations se fassent là et pour ça, et que le travail à la maison soit pour potentialiser. Mais ça remet peut-être aussi en question le fait de donner autant de devoirs à la maison aux enfants. S'il y a un nouveau système, ils sont malins aussi, hein. Ils voient ils peuvent avoir une aide qui fait le truc à leur place. C'est intelligent sans être intelligent, mais c'est aussi, il faut jouer avec son temps.
Oui, alors je considère qu'avoir des devoirs à la maison, c'est une bonne chose, parce que en fait, l'enfant doit être stimulé. Mais s'il est stimulé pour avoir peur de l'échec, c'est contre-productif. Et c'est notre système français depuis des années. D'ailleurs, c'est le système pas que français, hein, tous les systèmes éducatifs quasiment fonctionnent comme ça. Mais c'est parce que on ne veut pas.
Mais tu vois, on n'arrive plus à un. Tu vois, tu prenais cet exemple-là de ceux qui étaient intéressés et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui ne l'étaient pas avant, vu qu'il n'y avait pas ChatGPT, ben ils étaient obligés quand même de faire leurs devoirs. Tu vois, c'était comme ça. Donc on essayait quand même de les tirer. Ils avaient ce. En fait, ils étaient obligés de le faire. Alors que là, maintenant, ces gens-là, au contraire, ils ont une possibilité de ne absolument plus rien faire et de se couper de ce qu'avant on leur demandait un minimum à produire. Tu vois, donc est-ce qu'encore, comme tu disais, en fait, l'écart va justement se creuser entre ces deux-là.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Mais en fait, là, on en vient à un point qui est triste, qui dépasse complètement le sujet du podcast, c'est que déjà, il y a des parents qui ne devraient pas faire d'enfants. Il faudrait un permis pour être parent, parce que sincèrement, il y a des enfants qui sont extrêmement malheureux parce que les parents ne savent pas s'occuper d'eux.
Ouais, c'est bon ça. Parce qu'on n'a pas parlé d'amour quand même. Hein.
Alors mais non, ça dépasse complètement le sujet du podcast.
Mais ouais, mais
Il y a des gens, tu sais, ils sont là, ils n'ont pas de capote et ils disent putain, mais c'est pas un acteur plasma 4D qui sort, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'on va faire avec hein? Donc.
Ils posent la question à chat, hein, et ils ont la réponse après.
Donc, il y a ce problème-là. Et ensuite, un enfant, ça demande beaucoup de temps. Du temps qu'on prend pour de nous, de notre vie à nous, pour lui léguer à lui, pour sa construction. Et on est dans une société qui refuse, je pense, ce temps d'éducation aux enfants pour des raisons purement personnelles. Tout le monde veut se développer, tout le monde veut faire ceci, cela, pour des raisons purement égocentriques. On veut être champion dans ceci, on veut développer son business, etc. etc. Les gens sont tellement isolés dans leurs objectifs qu'ils ont du mal à se mettre en couple. Et une fois qu'ils sont en couple et qu'ils ont des gosses, ils ont du mal encore à retirer encore du temps à eux pour l'investir dans l'enfant. Et donc, les enfants se sentent abandonnés. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Si ChatGPT, c'est leur canne, eh ben voilà.
Mais peut-être qu'on finira par ces mots, en tout cas, Vincent. Je ne sais pas si Vincent a peut-être une dernière question. Il est coutumier du fait, donc est-ce que tu veux nous...
le permis de faire un gosse, je pense que tu as raison. Hein. On a bien vu qu'il fallait se préparer à tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut parler d'amour, on peut parler de stress aussi. Hein. Je pense, tu vois, on l'a évoqué de temps en temps, mais le stress, je pense, c'est dévastateur sur la conception, sur le temps de la grossesse, pour nos enfants. Moi, je suis à Paris, j'ai soigné des enfants stressés, quoi. Ça c'est dramatique, ça m'a fait beaucoup de peine de voir des enfants désarmés par rapport à leurs propres émotions. Ça c'est vraiment incroyable.
Et effectivement, on aurait pu parler du stress que transmet la mère enceinte à son enfant. Alors, je ne sais pas s'il y a une réalité scientifique ou une capacité à mesurer ça, mais l'état psycho-émotionnel de l'enfant peut être grandement impacté par l'état psycho-émotionnel de la mère. C'est un symbiote. Hein.
Pour comprendre la chose de façon simple, c'est du psychosomatique. Donc, la perception du stress conscient induit un lancement de signal par des cytokines pro-inflammatoires pour le système immunitaire. Ce signal pro-inflammatoire module épigénétiquement vos gènes qui se transmet à l'enfant. Et pendant la grossesse, ça c'est un peu différent, c'est simplement ces cytokines vont accentuer le système immunitaire contre l'enfant et ça va retarder son développement. Mais c'est bien évalué en science, ça. Hein. Mais l'effet est léger, mais il existe, hein, il est réel. Et juste pour vous donner une idée, parce que j'ai fait un petit calcul pour le podcast, j'ai pris la situation suivante, c'est la situation où l'enfant fait tout ce qu'il faut. Enfin, l'enfant subit les quatre points. Donc, sédentarité, excès de produits transformés, excès de sucre, exposition au perturbateur endocrinien, exposition aux écrans bleus le soir, manque de sommeil. D'accord ? Sur le QI, en moyenne, en étant conservateur, c'est 15 points de QI en moins. Et c'est sans les parents. Si les parents, en plus, au niveau prénatal, sédentarité, excès de fructose, plus perturbateur endocrinien, c'est 10 à 12 points de QI en moins. Donc, en étant conservateur, 10. 10 plus 15, 25.
Mais on n'est pas bien, là. Les calculs, ils sont, on est proche de la trisomie.
Petit, petit retour de ma mère qui est devenue assistante maternelle. Tu vois, je raconte, je la salue d'ailleurs. Et en fait, dans son école, ça m'a choqué, il y a 10 autistes. École maternelle, 10 autistes. Moi, j'ai jamais eu ça dans mon parcours scolaire, tu vois. Et j'ai eu ce débat en me disant, est-ce que c'est pas l'ensemble de nos modes de vie qui amène à augmenter ce nombre où moi, ça m'a choqué dans une école maternelle. Enfin, tu vois, c'est peut-être border, je sais pas. Alors, mais...
L'autisme, il y a des composantes génétiques à ça, c'est compliqué. Mais par contre, encore une fois, la sédentarité, l'excès de fructose, les perturbateurs endocriniens, ça a un impact
transformé, sur
la prévalence. Ouais.
Prenez soin de vos enfants, bougez, mangez bien, dormez bien. C'est assez classique au final.
Et déjà, vous aurez fait le taf et après, perturbateur, le reste...
Attention aux perturbateurs.
Écoutez 10%, voilà, régalez-vous. Hein.
J'ai construit une phrase, un truc important pour récapituler tout ça, c'est que le rôle des parents, c'est pas d'optimiser l'enfant à 100%, c'est de lui éviter les 5 pièges majeurs de l'enfance. La sédentarité, la junk food, les plastifiants, les écrans illimités, et l'absence de sommeil.
Déjà, mettez ça en place et...
Mais c'était, le reste, ça se construira.
Honnêtement, on tenait à faire ça. On sait que ça peut peut-être être un podcast qui ne fonctionnera pas, parce que c'est peut-être un sujet qui est trop ciblé sur l'enfant, etc. Mais ce n'est pas grave. On compte sur vous justement pour donner ces informations autour de vous, les partager et faire comprendre aux gens l'importance que ça a justement d'avoir un enfant qui bouge, qui est en bonne santé, car c'est un capital, on l'a bien compris, qu'on va derrière conserver toute sa vie et sur lequel on pourra s'appuyer. Donc, un grand merci Vincent. Et je crois que l'autre Vincent a une dernière question.
Ouais, non, c'est juste, on salue ton travail aussi. Hein. Tu débarques avec des phrases toutes construites pour le podcast, des études à la clé. Je pense l'autre invité qui est arrivé avec autant d'études, c'était Docteur Mouton. Et donc, voilà. Merci pour tout le travail que tu produis.
Mais de rien. Et merci à vous, parce que c'est un sujet qui est important.
Il faudra qu'on se fasse peut-être un podcast sur la mitochondrie et le fructose. Alors, pour ton prochain livre, n'hésite pas à nous partager les liens à l'occasion quand il sera disponible. On mettra tout en description, tes réseaux, ton application aussi pour se tester. On l'a vu. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre élément aussi? Et tes formations aussi. On mettra tout de toute façon en description. Un grand merci, Vincent. Merci à la team 1000% au complet aujourd'hui. On voit que c'est un gros invité quand la team est au complet, c'est que c'est bon signe. Merci pour tout. Et nous, et toujours pareil, on va pas être embêtant, mais voilà, les 5 étoiles, le like, le commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que Vincent, il aime bien mettre un petit commentaire. Hein. Il aime bien venir mettre ses commentaires. Ouais. Donc, si vous avez questions.
Si vous êtes taquin,
tu vas tout tacler. On verra. On va voir les commentaires que tu vas te mettre.
il va s'auto-défoncer en commentaire. Il va dire, ah non, là, c'était pas bon. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à Vincent. C'est vrai que c'est quelqu'un en plus qui prend le temps de répondre aux commentaires. Et c'est avec. On a de la chance de l'avoir. Donc, voilà. On le répète encore, un grand merci, Vincent. Ciao, ciao. Au revoir à tout le monde.
Allez, ciao.
Salut. Ciao, tout le monde.